Oh, 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 bienvenue dans Stand de France. Est-ce que Scott, tu as été sage?
Non, non.
Si tu n'as pas été sage, alors tu auras tous les mauvais livres de stand-up qui sont sortis.
Il y en a un paquet. C'est vrai en plus.
Mais si tu avais été sage, tu aurais eu quoi? Tu aurais eu le guide ultime du stand-up, Scott.
Oui, et comme je l'ai pas eu, j'en ai acheté deux. J'en ai acheté deux comme un con. Pas comme un con, parce que dès que j'ai mis la photo sur Insta, il y a un de mes élèves me fait hey, tu peux me le prêter? J'ai dit oui, allez, je te le prête. Et au même temps, une copine qui fait du stand-up, hey, tu me le prêtes? Je dis ah merde, j'ai déjà promis de le prêter. Du coup, j'ai acheté à nouveau pour faire un cadeau de Noël. Voilà, donc c'est cool. Offrez-en des cadeaux, c'est bien. Et voilà, rattrapez-vous, les gens que vous avez oubliés dans un Noël. Achetez ce livre.
Erreur de base, Scott, on ne prête jamais un livre de stand-up.
Oui, c'est
Tu
ça.
ne le reverras jamais.
Ah, c'est drôle. Parlant de ça, en plus, j'ai un pote qui me fait. Ouais, sinon, avec entre le livre de Greg Dean et le livre de Judy, lequel tu me conseilles? Je dis, machin, et un livre, l'autre, des différences. Je dis, mais par contre, c'est important de faire des exercices. Et sinon, tu as le guide et tu as le livre de Briac et tout. Il me fait, ouais, non, moi, ce que j'aime, c'est lire le livre dans sa totalité pour voir un peu la structure.
Mais il y en a qui le consomment comme ça, il y en a qui adorent ce désordre.
C'est trop drôle. Après, ouais, j'ai une copine pareil. Quand les autres livres sont sortis, il me fait, ouais, je l'ai fini. Comment ça, tu l'as fini? Ça fait une semaine que tu l'as acheté. Comment tu as pu finir ce livre? Donc voilà.
Sachant que dans Comedy Bible, il y a un plan sur 30 jours, donc c'est juste pas possible.
Oui, voilà, c'est le mec, il arrive à 16h, il est parti chez lui à 16h10. Il a voyagé dans le temps. C'est bien.
Et j'ai un pote qui a pris le livre, je n'avais pas vu plus longtemps, qui lui est dans le domaine universitaire. Il m'a dit, putain, mais moi je pensais que c'était ta vie ce livre. Je pensais que dedans il y aurait un peu du stand-up, mais un peu ta vie, qu'est-ce que c'est des stand-uppers et tout.
Ah, mais ça, on s'en fout.
Et voilà, voilà, tu vois, tu as répondu pour la foule. Allez, c'est parti, c'est l'épisode spécial fête. On sait que là vous allez avoir du temps chez vous normalement si vous n'êtes pas dans une start-up, si vous n'êtes pas employé d'Elon Musk.
Oui.
Vous n'allez pas de rush, vous passez pas en mode hardcore, donc vous allez avoir du temps pour regarder des jolis programmes. Vous avez fait une sélection de programmes, les programmes assez récents ou des programmes un peu plus niche, un peu plus vieux. Et on va vous dire ce qu'on en a pensé.
Aha.
Et je te propose quoi de commencer par, pour moi, ce qui était la plus grosse sortie de fin d'année sur Netflix en stand-up, à savoir le programme Headliners Only qui mettait en avant Kevin Hart et Chris Rock.
Ouais, ça me semble très très bien. C'est un super complément au livre de Kevin Hart, I Can't Make This Shit Up, qui est disponible sur Audible et bon, qui est en anglais. Je pense pas qu'il ait été traduit en
Non,
français.
en anglais, mais
Mais
lui par lui.
lui, lui par lui, ça c'est drôle parce que il est drôle. Il lit le truc de façon drôle et ça m'a beaucoup touché. Il y a des trucs qui m'ont touché et ça c'est cool, on va en parler. Donc,
Est-ce qu'on peut
allez.
parler du livre avant? Parce que moi, je ne l'ai pas lu et tu es la deuxième personne cette semaine qui me le conseille et
Ouais.
qui m'a dit, putain, ouais, j'ai retrouvé dans le documentaire exactement les trucs du livre et ça me parlait, quoi. Le mec, ça, il y avait un vrai plus à avoir lu le livre, a priori.
Oui, je pense que le livre, tu comprends beaucoup plus le parcours qu'il a fait, tu comprends plus la persévérance dont il a fait preuve, tu vois la relation avec sa mère et comment ça a été compliqué, ses relations de couple. Toutes les fois où il a presque réussi, mais il s'est cassé la gueule. Toutes les fois où il s'est. Là, dans le documentaire, il parle d'un pilote qu'il avait tourné de sa sitcom. Il est allé à
Big
la.
House.
Voilà, il est allé à la soirée
Ah, on va en parler de ça. On va pas brûler d'étapes. Cette histoire, elle est vraiment
Ouais.
importante. Moi, elle m'a beaucoup marqué, cette histoire.
Mais après, mais il y a le détail qui est montré dans le. Dans le,
Ah, mais
dans le
tu vas pouvoir me dire ça. Hein. Tu vas pouvoir bien m'expliquer.
ouais,
Donc,
je veux.
le documentaire, donc c'est Chris Rock, Kevin Hart qui décident de faire une série de dates communes, alors qu'ils sont tous les deux en plein milieu de leur propre tournée.
Ouais.
Ils décident de faire des exceptionnels et que dans des grandes salles, à savoir genre Madison Square Garden, que des entre des plus de 20 000, que des 20 000
Ouais.
places. Donc 20 000 places, pour donner une idée, Zénith en France, c'est 5 000, hein.
Ah oui. Ah oui, tout de suite, le Zénith, ça devient un stand-up de bar. C'est un truc
Voilà.
avec trois pélos. Ah ouais, quand même. Ouais.
20 000, c'est énorme. On n'a pas l'équivalent,
C'est giga au
peut-être.
Stade de France.
Voilà, c'est ce type d'événement, mais on se rappelle aussi que, on le disait dans le livre de Jesse David Fox, que en fait, le Madison Square Garden, jusqu'aux années 90, il n'y avait pas eu d'humour. Et c'est après Seinfeld, après tout ça, que l'humour a commencé à vraiment s'installer dans ces grosses jauges-là, parce que c'est devenu un phénomène de culture. Ce qui me permet, fin de parenthèse, la première de tout ce podcast, il y a une newsletter qui s'appelle AA. Est-ce que tu as abonné, Scott?
Non.
Ah, tu vas t'abonner de suite, c'est
Allez.
gratuit. Ça s'appelle AA Newsletter, c'est sur la comédie.
Ouais.
Ce sont deux garçons qui font ça depuis quelques années. Tu reçois dans ta boîte aux lettres plein de recommandations comédie, mais très pointues.
Moi, j'ai alcoolique anonyme qui m'apparaît.
Achat, achat.
Ah, achat.
Ah, comme un haha, je rigole.
Ah, ok. Ah,
Et c'est trop bien parce que tu as des. C'est très fouillé. Ils sont au fait des dernières tendances. Là, pour le livre de Jesse Fox, ils ont carrément une interview, un entretien avec lui. Ils ont
c'est
pris le
cool ça.
temps de le contacter. Et donc, c'est pour les nerds de la comédie, mais ils ont l'avantage, contrairement à nous, toi et moi, de connaître aussi ce qui se fait en France un peu plus.
Ouais.
Donc, ils peuvent conseiller des programmes de Canal+, voilà, je les soutiens. Ils ont un petit Tipeee aussi, si vous voulez contribuer à leur pérennité. Foncez dessus, c'est entièrement gratuit. Vous aurez le lien dans la description, mais ça fait des années qu'ils font ça avec sérieux. Je pense qu'ils méritent de prendre de l'ampleur encore.
C'est cool. Moi, je me suis déjà abonné, donc vous voyez, c'est rapide et facile.
Trop bien.
Si vous faites haha, pas ah 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 ah, ça vous ralentira 3 secondes. Très bien.
Et donc, ils font leur série de dates, ils décident de faire cette série de dates, Chris Rock et Kevin Hart. Et ils ont décidé de documenter ça pour Netflix. Et honnêtement, moi, les 10 premières minutes, j'étais pas très bien, j'étais un peu mal à l'aise parce que ça tournait vite à l'auto-congratulation.
Ouais.
Et c'est là que je t'ai envoyé un message en te disant, ah, ça démarre pas très bien cette affaire-là. Et après, ça bascule et je commence à comprendre les enjeux.
Oui.
Parce qu'après, on retourne dans le passé. Une fois qu'on a fait le point sur OK, on est au sommet de notre art, on ne se dispute pas, on fait une tournée ensemble. Après, ils reviennent au passé en disant hey, mon influence, c'est ça, mon influence, c'est ça, et je viens de là.
Ouais. Et ça, c'est très cool parce que finalement, l'humoriste, je pense que c'est ça la difficulté. Et bon, disons que j'ai comme un fantasme de me dire que les humoristes sont quelque peu un peu plus protégés que les rockstars de la folie, des grandeurs, etc. Parce que un humoriste doit faire rire. Et pour faire rire, il faut que tu sois au niveau du public. Donc, tu peux, même si tu as des délires de stars, tu peux pas trop non plus parce que il faut que sur scène tu fasses rire. Et je sais plus pourquoi je dis ça. Mais oui, quand ils disent ça, ils disent oui, je suis au sommet de mon art. Ben, ce n'est pas un mec qui se la pète, c'est un mec qui s'est bouffé des bites, des salles vides, des trucs, des fixes bus 13 heures pour faire des trucs. Et là, il sait où il est, mais il sait d'où il vient. Donc, ce n'est pas forcément une prétention, mais le mec, il sait, c'est comme il dit à la fin quand il fait un petit spot au Comedy Cellar, il dit bah, la folie, peut-être qu'elle m'attend. Mais voilà, c'est une sorte de lucidité permanente que tu dois avoir. Sinon, bah, l'humoriste est clairvoyant, normalement.
Et il sait quand il est au sommet, il sait qu'il peut chuter. J'ai rencontré des gens, ça m'est déjà arrivé en France de fréquenter des comédiens qui étaient allés très 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 haut
Ouais.
et qui après avaient connu des creux. Et en fait, quand tu leur proposes un truc, ils ont vraiment ce comportement de ne pas refuser parce qu'ils savent qu'à tout moment, ça peut rebasculer vers le bas.
C'est ça.
Donc ils sont là, ils prennent toutes les piges possibles, ils disent non, 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 mais là, je récolte, hein, je peux récolter, je récolte. Et c'est pas récolter la thune, c'est récolter le fait de pouvoir jouer.
Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, c'est ça. C'est savoir quel est le métier, en fait. C'est un peu ce que disait Seinfeld. Il voit un mec à 6 heures du matin devant le chantier pour aller bosser avec sa gamelle. Il dit, bah oui, il se pointe, moi aussi je me pointe. Et c'est.
Seinfeld, la vieille, hein, l'ami?
Ah oui, ah ouais.
Voilà, il apparaît dans le documentaire,
Ah ouais.
ça, il en a basculé. Et pendant longtemps, je pense qu'il a fait illusion, il gardait un peu une allure fringante. Et là, ça y est, on est passé
Ouais.
sur le vieux Seinfeld.
Ah ouais. Et en plus, moi, je veux rien à voir. Petite parenthèse. Pareil, je vois au Portugal un clip qui sort pour fêter les 50 ans de carrière d'un chanteur. Et là, tu vois les chanteurs qui apparaissent. Donc, il y a des gens que je n'avais pas vus depuis énormément de temps. Et tu les vois et tu dis non. Waouh. Mais ce qui est drôle, c'est que quand eux ont pris un coup de vieux, c'est que toi aussi, tu as pris un coup de vieux.
Bien sûr.
Mais tu te. Waouh. Tu vois, c'est un truc. C'est drôle, quoi. C'est quand. Voilà, c'est ça.
Et si tu veux vraiment sentir un coup de vieux, c'est il n'y a rien de mieux que de fréquenter des jeunes comédiens.
Ah oui.
Ah, c'est tellement significatif, il te ramène vraiment à ton état le plus primaire de tu es vieux.
Ouais.
Tu es vieux, tu ne comprends pas ce qu'on fait parce que tu es vieux, parce que nous, on est. Alors, je vais te donner un exemple très simple. Moi, les mecs, selon les endroits où je suis, il arrive que tu as entre deux spots, tu as 1 heure d'attente.
Mais ouais.
Alors, tu vois, tu as le temps de parler avec eux, avec les petits jeunes qui viennent pour gratter une place en hors-chapeau, des choses comme ça.
Ouais.
Et j'ai eu des phases où le mec, il m'a sorti des crêpes doo-wop de sa sacoche, parce que c'était ça son repas du soir. Hein.
Ah oui.
Et il y en a un autre, il m'a fait, ah, tu vas te moquer, mais c'est pas grave. Il a sorti un tupperware
Ouais.
de son sac. Dans le tupperware, il y avait du tabac roulé. Il y avait de quoi rouler sa cigarette. Parce que c'est le truc le moins cher qu'il puisse faire pour fumer. Et c'était tellement,
Oui.
tellement drôle de me dire, ah ouais, vous vivez une réalité due à votre âge, une réalité due aussi à votre économie qui est plus la mienne.
Ben oui, c'est ça. Moi, la mienne, c'est j'ai jamais eu d'argent pour fumer tout court. Et donc, oui, mais c'est très intéressant. Les trucs qu'on fait, c'est comme quand tu. Voilà, un truc, un exemple tout con, c'est comme les Américains qui sont SDF, mais SDF qui habitent dans leur voiture.
Ah ouais.
Et qui roule et que machin, et que. Voilà. Et tu dis, waouh, c'est tout un truc qui. Bon, il y a très. En France, c'est rare, ou c'est pas très. C'est pas très courant, mais là-bas, c'est. Et des humoristes aussi, hein, qui vivent dans leur bagnole. Et d'ailleurs, le gars qui a écrit la guerre de l'art, il disait qu'à un moment, il vivait dans sa
Ouais, c'est un peu
voiture, et il sortait
plus.
sa machine à écrire, etc. Et que, voilà.
Tiffany Haddish, elle faisait ça.
Ouais.
Oh ouais, c'est quelque chose qui est un peu
Le
plus
mec
accepté.
d'Avatar, l'acteur principal de Avatar,
Voilà.
il faisait ça. Et le jour de l'audition, bon, il s'est réveillé dans sa voiture, il vivait dans sa bagnole. Après, il a fait Avatar. Et après,
Alors, je cherche un film récemment qui était vraiment trop bien sur ça, sur une nana. Je crois que ça va être Toni Collette. C'est sur une nana, justement, qui ne fait que. Qui vit comme ça, qui est itinérante.
ouais.
Je vais te trouver parce que le film est vraiment exceptionnel. C'est Michel Zao qui l'a fait. Michel Zao. Si Michel Zao existe, ouais. Est-ce que cette réalisatrice existe? Ah.
Si Michel Zao existe, c'est que je ne suis pas fou.
Ouais, écoute, peut-être. Attends, il faut que je le trouve, c'est pas
Vas-y,
possible.
trouve. Donc, on disait quoi? Que cette Kevin Hart, on parlait du livre de Kevin Hart, et que, le temps que tu cherches, je meuble, et
Ah,
que c'est
ça
très
fait.
bien, c'est
Tu l'avais vu,
agréable.
Sophie, avec Toni Collette ou Olivier
Non.
dans. Putain, tu loupes pas de truc là, hein, Toni Collette. Je vais prendre sur IMDb et en 2 secondes, je vais la trouver.
Trouve-la-moi.
Comme ça, tout le monde sera content. Surtout moi, parce que ça te le fait ça d'avoir une idée qui.
Ouais, et
Tant
tu.
qu'elle t'a pas quitté, c'est impossible. Hein.
C'est ça, après, t'es dans la douche 3 heures plus tard et tu gueules le nom de la personne. Ouais, mais c'était ça! Et que c'est trop tard.
Bon, mais je ne le trouverai pas et c'est pas.
Oui, donc, tout à l'heure, voilà, dans quelques minutes, tu vas.
Je vais avoir
Ouais.
un esprit de. Peut-être c'est pas Toni Collette, peut-être je me trompe totalement.
C'est fort possible.
Ouais, c'est pas grave. Avançons sur cette histoire. Donc, on revient aux origines de Chris Rock et Kevin Hart. Et une des premières origines qu'on donne, alors vraiment, ça, c'est quelque chose que j'apprends parce que je ne suis pas très documenté sur Chris Rock, c'est que bah, c'est Eddie Murphy qui le repère en fait.
Ouais, moi non plus, je connais pas trop. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup pendant le documentaire, mais je connaissais pas trop le parcours de Chris Rock, ouais.
Donc Chris Rock, qui fait du stand-up à New York. Celui,
Ouais.
c'est un vrai New Yorkais. D'ailleurs, c'est un vrai New Yorkais. Il a un truc qui est touchant et que j'aime bien dans le documentaire, c'est que c'est le gars, il arrive sur le tournage à pied, repart à pied.
Ouais.
Et il sait que s'il fait low profile, s'il baisse la tête, personne ne le reconnaîtra. Il a vraiment cette capacité à se fondre dans la foule et il aime ça. Il repart à chaque fois à pied, alors que Kevin Hart, il est dans des voitures qui est énorme.
Oui, de bus, dans un bus. Ouais.
Et il y a une approche, à mon sens, de la célébrité qui est intéressante chez Chris Rock, c'est je suis un citoyen de New York et je peux aller n'importe où dans ma ville sans avoir de soucis.
Oui, parce qu'il dit, ouais, faut pas me faire suivre avec une caméra, sinon les gens vont voir que c'est moi et vont me parler. Après, j'ai une copine qui a croisé Brad Pitt au Hyde Park à New York, tu vois. C'est assis en train de bouffer un sandwich. Et tu te dis, waouh. Bah, parce qu'à New York, il y a tellement de tout le temps, que les gens, ils font même pas attention, quoi. Genre, c'est normal. Ils disent, ah, il y a un cadavre sur le trottoir. Ah, il y a Brad Pitt de l'autre côté. Ouais, je m'en bats les couilles, je vais acheter mon pain.
Il y a une
Je pense
question
que ça
d'attitude aussi.
va faire. Eh
Pour avoir fait, il y a très longtemps, je fais un bout de chemin avec Gad Elmaleh. En fait, dès le moment où il mettait sa casquette et qu'il faisait profil bas, personne ne nous arrêtait. À partir du moment où on nous mettait la caméra à côté de nous, là, forcément, les gens déclenchaient. Il a enlevé la casquette et les gens déclenchaient encore plus. Et si tu veux pas te faire remarquer, tu te fais pas remarquer. Moi, ouais, Julien Lepers, tu connais Julien Lepers? Ouais, Julien
Oui.
Lepers, suisse, le présentateur à Question pour un
Oui,
champion.
oui.
Lui, c'est carrément un gars qui avait, dans sa voiture, il avait un système de haut-parleurs où il pouvait arriver d'un village et salut, c'est Julien Lepers!
Ah ouais.
Ah ouais,
Tout ça.
fou. Et pareil, comme il parle très fort et tout, il a vraiment, si tu es dans un restaurant avec lui, forcément, tout le monde va, même si on t'a mis dans un box VIP, tout le monde va se retourner parce qu'il va gueuler, il va faire en sorte que les
C'est
gens
très drôle. T'imagines,
viennent
t'es
vers
dans
lui.
un box, tu entends sa voix, tu dis, on peut éteindre la télé, j'en peux plus de ce con. Et
Mais
ce mec.
c'était exactement ça. C'était tout le monde savait, il y avait un truc qui tu fais un bruit qui tout le monde était interpellé et personne n'arrivait vraiment à identifier qui c'était. Après, quand les gens ils ont identifié qui c'était, c'était choquant. La popularité du gars.
Oui.
Avec une nana qui est venue le voir à table, qui a dit, viens avec moi dans les toilettes.
Ben ouais.
Et lui, il a fait, mais non, mais en fait, j'avais ton mari, mais j'avais ton mari, mais non, on se fait la bise, mais celui qui est formidable, c'est Briac, tu connais pas Briac? Briac, il est
Ouais.
formidable, c'est un auteur incroyable. Parce qu'ils ont cette capacité, c'est à vouloir faire déflexion. Je sais pas si c'est une vraie déflexion ou une fausse déflexion. C'est-à-dire, ils font
Ben.
semblant que ils veulent mettre en avant ceux qui sont autour, alors que en vrai, on sait bien que c'est lui qui prend toute la lumière et c'est logique au vu de sa carrière.
Ben oui, ben disons que c'est très. C'est comme il y a un épisode de Comedians in Cars Getting Coffee, où je pense que quelqu'un parle de cette série. Donc, si vous n'avez pas regardé, allez regarder. Normalement, c'est sur Netflix. Je sais plus, c'est
Ouais,
parti.
tout a été racheté par Netflix, donc c'est
Voilà.
une série qui était programmée à la base sur YouTube et comment dire, financée par Jerry Seinfeld et des privés, et par la suite, elle a été vendue à Netflix. Et c'est bizarre parce que pendant un moment, c'était bien parce que c'est bien produit, puis ça s'est arrêté et je me dis, je peux pas m'empêcher de me dire, ça s'est arrêté parce que c'est allé sur Netflix. C'est-à-dire, deux moments où on a un peu cassé le jouet de Seinfeld, il a dit, bon, non, j'arrête.
Ouais, bah oui. Et il y a un des comédiens qui a été interviewé et qui disait que, justement, Seinfeld, il y avait quelqu'un de sa prod qui allait dans les lieux où ils allaient, même boire un café, même sans l'émission. Tu vas boire un café et c'est payé. Il n'y a pas d'embarras de se dire, ah, ok, genre, je vais payer un café à Seinfeld, quoi. Ou c'est Seinfeld qui va me payer un café. Tu vois, donc en plus, c'est ton idole. Donc, comment tu fais? Et au moment de truc, il se lève juste. T'inquiète, on s'en est occupé. Et waouh! Et donc, ça fait vraiment le plus chic, quoi. T'es vraiment le waouh! Voilà, c'est grand seigneur. C'est ça fait.
D'ailleurs, je
Tu
vous
sais bien que
conseille
c'est pas
ça.
la star.
Je vous conseille ça si demain vous avez rendez-vous, que vous n'êtes pas pouilleux, si vous voulez être un peu classe. Débrouillez-vous pour régler soit avant, soit à un moment discret, mais et épargnez-vous le moment où on apporte l'addition et tout, ça n'amène rien à personne.
Oui, voilà. Tu imagines, t'as Gad Elmaleh, tu regardes dans les yeux
Non,
et tu fais un bisou à ta carte bleue.
non,
Regarde
je me suis
Gad,
dit,
c'est moi qui te paye un
vous
café.
levez, vous payez, ou
Ben
voilà, c'est réglé en 2 secondes, quand la personne va aux toilettes, vous réglez, au moins quand c'est le moment de partir, tout le monde part. Là, ça m'est arrivé. Une anecdote, comme c'est les fêtes, c'est le moment des anecdotes un peu bling-bling. Un jour, mon ancien producteur, on signe un contrat avec Canal+. Et je sais pas, le contrat, il était. J'avais dit à mon recruteur, j'ai fait, bah, écoute, si on le signe ce contrat, je t'emmène manger au Trembleu. J'ai dit, ouais, c'est à la gare de Lyon, c'est le resto Pechy de la gare de Lyon. Et en fait, on avait signé le contrat, mais j'avais pas eu l'argent du contrat.
Ah oui.
Et lui, il était très habitué à ce train de vie un peu fastueux.
Ouais.
Donc c'était, bah oui, on prend du champagne, bien sûr, on prend du champagne, mais bien sûr, moi j'étais là,
Logique, ouais.
je me liquéfiais parce que les prix, c'était vraiment pour les pigeons.
Eh
Et
oui.
je me faisais pigeonner, c'était vrai que c'était.
Ça, c'est très drôle, ça.
Ouais, et surtout, il me faisait ce qui était marrant, c'est en fait, il me faisait beaucoup travailler en amont des projets. C'est normal quand tu veux présenter des dossiers, tu es obligé. Toute la partie que tu fais en amont, elle n'est pas récompensée si le
Ah
projet
oui.
n'est pas pris.
Bah oui.
Mais tu es obligé de travailler à fond sur ça. Et à chaque fois, c'était des moments où je voyais pas ma femme, je voyais pas mon fils. Il me disait, ouais, mais c'est pas grave parce que tu les amèneras. Ta femme, tu lui dis que tu l'amènes en Grèce cet été, voilà, et tout ira bien, quoi.
Oui, tu lui dis, c'est
Non,
pas
mais
cher qu'il a amené. Oui.
tu dis parce que tu vas avoir le contrat et tout, mais comme lui m'a volé l'argent et ne m'a jamais donné l'argent,
Ah oui, le bâtard.
eh ben alors j'ai perdu le temps, l'argent.
Waouh. Ah
Et lui,
oui,
c'était
mais
sa solution à tout. En gros, s'il y avait un problème chez lui, il fait ben non, mais je vois ça, mais cet argent-là, je vais t'amener à Las Vegas, t'inquiète pas,
bah
chérie.
oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ah merde. Franchement, j'allais te demander son numéro, mais ça va aller.
Ah non, non, abstenez-vous, abstenez-vous. C'est pas dur à trouver, c'est à Marseille, mais abstenez-vous de ces genres de personnes qui sont. Pareil, vraiment, on va être très simple. Si demain vous avez un producteur qui a été en procès avec 10 autres comédiens, ne soyez pas le 11e, quoi. Vous ne serez pas l'exception.
Bah oui.
Arrêtez de croire que vous allez être l'exception. J'ai encore parlé avec. Ça m'arrive quand je croise des comédiens à Paris qui me disent, oui, j'aimerais qu'on te parle de ce projet-là, on a ce projet avec ce producteur. Et moi, j'aime pas parler entre deux portes. Tu vois, dans la comédie club, j'ai dit, venez, on fait une réunion, on se réunit, on met à plat toutes les infos qu'on a sur ce producteur et sur vous, votre projet. Et quand on le fait à chaque fois, c'est, oui, c'est tentant, je les comprends. Et après, en face de ça, j'ai dit, mais regardez, lui, il a eu un procès, il a gagné. Lui, il a eu un procès, il a gagné. Lui, il a eu ce souci-là, et c'est. Les gars, vous voulez être le prochain à faire le procès avec ce mec-là?
Ben oui. Ouais.
Si vous voulez, pourquoi pas, mais ça finira comme ça. Et forcément, quand un producteur aborde un jeune comédien ou un comédien général, c'est une phase de séduction. Il va vous dire exactement ce que vous voulez entendre.
Ça, c'est sûr.
Je sais vraiment, il va te trouver, il va te dire, attends, Scott, mais tu es portugais, mais tu connais pas le meilleur portugais de la capitale, non? C'est mon ami Jimmy, t'amène. Il te
Oui.
dit, la table sera réservée et tu as le chef, il va venir te taper la bise et tout. Ah, tu es portugais. C'est tout un scénario qui est préparé. Ils sont capables de dinguerie.
Ah oui.
Et le prochain après, il va venir me voir. Attends, moi, il est italien. Et il m'amène au même restaurant et d'un coup, le mec, il parle italien.
Ah oui, c'est drôle
Ils
ça.
sont à ce niveau de fourberie.
Ah oui, bah oui, parce que c'est ça le truc, c'est on veut t'exploiter, toi tu veux être exploité quelque part parce que tu sais que si eux ils sont là parce qu'ils croient qu'ils vont gagner de l'argent avec toi, ok, c'est un deal, ok. Par contre,
Employé, exploité,
ouais.
employé.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et après, tu sais, mais c'est toujours, ouais, c'est compliqué parce qu'il y a ton ego. C'est vraiment, et là, on est fragile. Les artistes sont fragiles avec ça. Et il y en a
Clairement.
beaucoup qui se font avoir parce que, et ces gens-là, ils ont de l'expérience et leur fond de commerce, c'est justement d'aller séduire des artistes, les vendre, etc. C'est là, bon, je vais dire un truc, c'est peut-être de la merde. Mais il y a eu le complément d'enquête sur Hanouna, sur Depardieu.
Ouais.
Et là, j'ai entendu quelqu'un dire que Moix, Yann Moix, je ne sais pas comment il
C'est
s'appelle.
ça, Yann Max, hein.
Voilà, Yann Moix, on lui fait croire qu'il va faire tourner un documentaire, une connerie comme ça, avec Depardieu, pour un film de je ne sais pas quoi, alors que le seul but est de tourner en off des conversations de Depardieu avec des gens. Après,
Ouais.
je ne sais pas si c'est vrai,
Ah, c'est tout à fait possible.
mais que tu te dises waouh, et que le producteur, c'est le même, le producteur de ce soi-disant film ou documentaire, je ne sais pas quoi, soit le même que Cache Investigation ou Complément d'enquête ou quoi, et qu'ils te disent que ça, la seule raison de faire un truc, c'est de, voilà, de choper Gérard Depardieu avec sa garde baissée quelque part. tu dis waouh.
Wow. Il a les mains lourdes, hein, t'inquiète pas, la
ah oui, 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 ah oui, c'est ça, mais pas pour lui, bah, de par Dieu, bah, voilà, il lui arrivera ce qui lui arrivera, mais l'autre, moi, qui n'est pas, je sais pas, je le connais pas, mais te dire, ouais, imagine, on te fait ça, ouais, viens, Briac, on va faire un truc pour Amazon et tout, tu vas voir.
Ah bah, tu sais bien,
c'est que le seul but, c'est de moi, c'est de me choper, moi, on est en train de raconter de la merde. C'est waouh, comment
ça arrive vraiment. Ah ouais. Des gens, ça arrive aussi quand on se sert de toi comme intermédiaire pour tout, exactement comme ça, pour toucher quelqu'un d'autre. C'est le jeu. Après, la prod, c'est comme une relation amoureuse, c'est-à-dire il y a une vraie phase de séduction où on va te remettre monts et merveilles, puis il faut savoir qu'un jour il y aura une séparation.
Bah oui.
Et il y en a, bon, voilà, il y en a qui ont un discours clair et dire bon, on n'était pas mariés, ben dans ce cas-là, on prend les papiers, on fait fond déchire et c'est bon. Puis il y en a d'autres qui prennent ça un peu plus à cœur et personnellement, et qui ont un côté pervers narcissique où ils vont alterner toutes les phases à te pleurer dessus, à te dire qu'ils t'ont créé, puis à dire que tu es une merde, puis à te dire que tu es le meilleur, puis à te dire comme ça. Ouais. Bon, voilà, il faut le prévoir. Dans tous les cas, avoir un avocat, c'est trop bien.
Ouais, ça, c'est bien.
Avoir un avocat qui est spécialiste dans les artistes, c'est encore mieux. Il en existe. Je crois qu'on a le droit de faire de la pub pour les avocats maintenant. Moi, à mon avocat, ça s'appelle Chloé Gillard. Elle règle vraiment. Elle est aussi manager d'artistes de rap.
Ah oui.
Et en fait, c'est super intéressant parce qu'elle entre avocate. Elle peut être manager aussi sur certains artistes. Ah, donc, donc, l'avocat, il faut savoir que vraiment qu'elle intervient, c'est en particulier. C'est pas pour les litiges. Hein. En amont, il intervient surtout pour la contractualisation de vos rapports avec les producteurs ou avec les différents interlocuteurs. Et je rappelle toujours cette anecdote, c'est quand on m'a proposé un contrat, en particulier management, producteur, il y avait Briac qui s'engage à faire du stand-up.
Ouais.
Elle a dit, mais ça veut dire quoi, s'engage à faire... Ça veut dire quoi, stand-up? Pourquoi ça veut dire quoi? Concrètement, on va détailler d'un paragraphe, c'est quoi le moment où Briac fait du stand-up? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le phénomène? Est-ce que c'est à partir du moment où il est sur scène, il fait du stand-up?
Ouais.
Ou c'est à partir du moment où il fait des blagues qu'il fait du stand-up? Qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui est dans ton mandat ou n'est pas dans ton mandat?
Ouais.
Et sur quoi tu peux prétendre avoir 10% ou sur quoi tu dois t'asseoir?
Ouais. Ça, c'est intéressant. Et un autre truc aussi, c'est de réfléchir à la propriété intellectuelle de vos œuvres. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Eddie Izzard, que son premier spectacle, il l'a autofinancé. C'est-à-dire que dès qu'il a eu l'opportunité de faire son spectacle dans un théâtre, il a payé, lui, le réalisateur, les caméras, il a tout payé, lui, et la propriété intellectuelle de ce truc, lui, revient. Alors que si tu as un producteur qui te dit « Ouais, mais t'inquiète, on va faire une capta et tout, on va faire ça pour Netflix, par exemple », bah, tu le fais. Dans le contrat, ils avancent les frais du tournage, mais ils ont peut-être une exclusivité de 10 ans ou de trucs ou de machin. Et toi, comme un couillon, t'es là, ouais, t'es content. Mais après, tu vas voir qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de bouffer ton travail, alors que ce qu'ils ont fait, c'est d'avancer, je sais pas, 5, 10, 15, 20 000 euros. Je sais pas, ça dépend de l'ampleur du truc. Mais si ça ne t'appartient pas, tu l'as dans l'os. C'est un peu comme Paul McCartney ou le catalogue des Beatles appartenait à Michael Jackson. Tu as des trucs, il y a des choses après qui sont compliquées. Et dans l'humour aussi, donc...
Dans l'humour, je vais être très clair, quand tu fais une captation, il y a plusieurs interlocuteurs, tu vas avoir le diffuseur, tu vas avoir le mec, le réal, la production, des choses comme ça, et tu as énormément de mal au début à comprendre qui est payé pour quoi, et où va ton argent, et tes droits. Et il va falloir, si tu veux être un peu sérieux, il faut kicker le truc, il faut comprendre, il faut se faire conseiller.
Ouais.
Et il n'y a pas de honte à demander 100 fois.
Ben oui.
En particulier, déjà, les interlocuteurs intéressants, c'est la SACD, je reviens dessus. Cet organisme, vous le payez, il collecte des droits, il répartit les droits. C'est-à-dire, eux, ils ne font que collecter, distribuer, collecter, distribuer.
Ouais.
À eux, vous pouvez leur poser des questions concrètes. Alors, tiens, voilà, je fais le spectacle tel jour, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous dire comment vous faites la déclaration et où va l'argent.
Ouais.
Cet organisme vous protège d'une certaine façon parce que s'il y a des droits d'auteur et que vous êtes bien déclaré, c'est inaliénable. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas un producteur qui peut arriver de redéclarer l'œuvre et dire « Non, mais en fait, les droits sont à moi. » Non, non, vous avez bien déclaré que les droits étaient à vous, ils sont perçus. Les droits de mise en scène, ouais. C'est la même chose. Ouais. Après, dans votre contrat, il y a d'autres droits comme le,
Et
par
la
exemple, le voici.
diffusion, les trucs, machin, je sais
Diffusion,
pas.
rediffusion. Le
Oui,
droit, par
c'est ça.
exemple, vous pouvez avoir 4 ans pour une chaîne X et après, ils peuvent le revendre à une chaîne Y. Mais ça, il vous appartient de comprendre, de vous faire expliquer une bonne fois pour toutes et ne laissez pas de zone d'ombre. Nous, ça nous arrivait sur les projets parce qu'on était pressé de laisser des zones d'ombre. Un été dans l'ombre que pour nous. Les
Bah oui,
prospects
c'est
savaient
ça.
exactement où ils allaient.
Bah oui, oui. Ça, c'est.
On a perdu 1 000 000 d'euros, hein, mais c'est et pour le coup, c'est même pas faux les producteurs, c'est nous qui étions négligents. On a négligé de se faire payer certains droits d'une certaine façon, la prime d'écriture, les choses comme ça. Donc, demandez, c'est pas grave, investissez sur vous,
Alors là,
payez
tu
un
m'as
avocat,
coupé un
payez
petit
les
peu.
juristes, faites-vous conseiller parce que c'est un investissement de base. Après, vous avez moins
Donc,
besoin de le faire, mais
tu
il faut
disais
comprendre une fois pour toutes ce que
que.
c'est qui vous implique. Et cet argent-là, c'est l'argent que vous ne perdrez pas plus tard.
Bon, ces 10 dernières secondes, tu as été congelé. Donc,
Ah, mais je pense que
mais
ça a
je sais pas
parlé quand
si.
même. Donc, on va enchaîner sur Kevin Hart
Allez.
et Chris Rock, puisqu'on est vraiment qu'au début d'histoire. Donc, on disait Eddie Murphy repère Chris Rock, qui est comédien à New York, et lui donne un rôle dans le film de Beverly Hills 2. Et c'est marrant de voir le début parce que on voit qu'il a directement un truc à part. Et c'est bizarre parce que Kevin Hart, il a directement un truc à part. Et dès le début, on voit que les deux un peu cette même dynamique, on le voit en parallèle, qui se sont fait chacun repérer et mentorer par un autre comédien.
Ben oui.
Dans le cas de Chris, dans le cas de Chris Rock, c'est Eddie Murphy. Dans le cas de Kevin Hart, c'est un comédien stand-up de Philadelphia qui l'amenait à chaque fois qu'il le prenait à Philadelphie, qui l'amenait à New York Way, qui le ramenait en voiture chaque soir.
Ouais. Mais justement, dans le livre, il part de cette expérience-là. C'est Kevin Hart qui conduit. Donc, et donc finalement, au début, je pense qu'il a conduit une ou deux fois. Mais après, c'était vraiment un échange de trucs. C'était le mec, ce stand-upper, dit, OK, on se retrouve à tel endroit pour partir. Et je pense que c'est Kevin Hart qui le conduisait à chaque club,
Ouais.
à chaque soir. Et il a passé, je ne sais pas combien de temps, il faudrait revoir dans le livre, mais je ne sais pas combien de temps Kevin Hart a passé à être chauffeur pour ce mec, à être là au fond de la salle et à même pas jouer, même pas être présenté aux autres humoristes. Et donc, dès qu'il disait, ouais, ta gueule, stupide, ouais, shut up, stupid. Et il faisait ça, ça, ça. Et plusieurs fois, ils étaient à la base, ils étaient 3 ou 4. Et les deux qui étaient avec eux, ils ont dit, non, mais le mec, il se fout de notre gueule. On est là de conduire, à l'amener, limite à lui payer l'essence, etc. Pour que lui, il aille jouer dans les clubs. Nous, on monte pas sur scène. Il s'attend à ce que nous, on soit là à le regarder comme des cons. Non, genre, on fait plus ça. Mais Kevin Hart, il est resté. Et il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Et justement, quand il a commencé à faire ses sketchs, l'autre, il lui défonçait. Parce que, well, Little Kevin the Bastard, mais c'est quoi ça? Parle de toi, t'es con, t'es con, t'es con. Parce qu'il croyait, parce qu'il était drôle. Et ça, des fois, c'est un handicap d'être drôle. Pour certaines personnes, c'est un handicap parce que tu es drôle. Et donc, quand tu vas sur scène, les gens vont rigoler. Mais entre être drôle et être, genre, faire la tournée la plus, genre, celle qui a
Lucrative. Hein.
la plus lucrative de l'histoire du stand-up, il y a un pas quand même. Et donc, il a passé beaucoup de temps à se faire défoncer parce qu'il ne comprenait pas que le stand-up, c'est un art personnel et que c'est ce que tu essaies de cacher que va pouvoir dire, que va faire en sorte que ton public te trouve. C'est un peu comme Orelsan. Je pense que Orelsan, dans une chanson, les trucs que je cache à ma mère sont les mêmes qui remplissent des stades.
Ouais.
Et là, tu. Ah ouais! Et puis, il part de. Justement, donc, de Kevin Hart, le livre, il est très sympa parce qu'il va en détail dans ses relations, dans ses problèmes d'argent. Voilà. Bon, après, on arrivera à la soirée. Vas-y, continue.
Et je fais la parenthèse qui est intéressante, ces histoires de ce qui faisait tes problèmes avant, ça fait ton succès maintenant. J'ai une anecdote qui est marrante, j'ai repensé récemment parce que moi, justement, j'ai inscrit mon fils au collège et qu'on s'est aperçu, le principal de l'école a dit, ah, votre fils, il a un cerveau dit divergent, d'une façon de passer un peu différente.
Ouais.
Et ça va lui poser tel problème, tel problème, tel problème au collège. Il a dit, mais il vaut mieux qu'il soit avec nous quand même, parce que ça, on va pouvoir le gérer ensemble. Et les problèmes qu'il a décrits, c'est les problèmes que j'ai vécu, moi.
Ah oui.
Et un truc en particulier qui était marrant, c'est, il y avait les cartes, je sais pas si vous faisiez ça chez toi, nous, on faisait la carte de France et on faisait les légendes dessus.
Ouais.
On plaçait, par exemple, là, il y a Paris, là, il y a Lyon, là, il y a le Rhône.
Ouais.
Alors, dès le moment où j'ai compris qu'il y avait la carte, qu'il y avait des légendes, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de mettre la légende que je veux?
Mais oui.
Donc, très vite, il y a eu des abductions extraterrestres, des attaques de rats géants sur certaines villes.
Oh.
C'est mes cartographies, sérieusement. Tac, tac,
Ouais,
tac,
ah
tac.
ouais, c'est drôle ça.
Par la suite, convocation, votre fils, il est débile.
Ah ouais.
C'est un idiot, il fait des trucs comme ça, attaque de rats géants, nanana. Mais, quand tu reprends maintenant l'ensemble de ma carrière, qu'est-ce que c'est qui fait que les gens me suivent sur les réseaux?
Bah oui.
C'est parce que j'arrive à dessiner des rats sur un paperboard et que je réinterprète ces choses, les graphiques, les choses comme ça, je les ai réinterprétées à ma façon.
Oui, c'est très intéressant ça, ouais.
Et je me suis dit, putain, c'est fou parce que ce pourquoi j'ai été blâmé, c'est ce qui a fait que j'ai eu une touche différente que les autres humoristes.
Ça, c'est oui, mais c'est ça, c'est ça. Et c'est ce que dit Jimmy Carr aussi dans son livre, c'est trouve ton avantage naturel et appuie-toi dessus. C'est ça. Trouve le truc, ton truc, et tu peux t'appuyer dessus. Et ça, c'est assez cool. Mais pour ça, il faut que tu laisses la place à savoir ce que c'est, à découvrir ce que c'est. Mais dès que tu essaies de faire comme font les autres, tu sais, ah, c'est comme ça qu'il faut faire le stand-up, ou c'est comme ça, quoi. Et là, tu te mets dans un carcan. J'ai un de mes élèves, c'était super. Il a fait 3 mois de cours. Il était là, il a fait son showcase, les gens étaient morts de rire du début à la fin. Il a fait quelques scènes, il avait un petit sketch, machin, ça tournait très bien. Mais un jour, il a compris. Non, je ne veux pas faire ça. Le stand-up n'est pas pour moi. Il a compris tous les mécanismes des blagues, tous les trucs. Il a dit non. Maintenant, quand il vient jouer dans un comedy club, et je lui fais un bisou, c'est Alex Fitou, il vient avec un piano. Le support du piano, le tabouret, un balai, une pelle, un costume, mais un engagement de fou pour faire 10 minutes et c'est complètement ovniesque ce qu'il fait. Les humoristes peuvent le regarder un peu de haut, genre ah oh oui, mais nous on fait du stand-up, il y a un peu une certaine prétention des gens qui font du stand-up. Le public, il y en a beaucoup qui le regardent comme des poules devant un couteau, mais il y a un pourcentage fixe dans ces salles qui sont en fou rire du début, dès qu'il monte sur scène, jusqu'à 10 minutes après où il sort, en fou rire permanent. Et donc, s'il arrive à se faire voir par un plus grand nombre de gens, ceux qui sont en fou rire, et chaque fois que je l'ai vu, le pourcentage, il reste à peu près, où il y a toujours 3 ou 4 personnes comme ça. Et donc, s'il est exposé au plus grand nombre, ces gens qui sont en fou rire vont tous venir. Et là, tu as une salle pleine de gens qui aiment ce que tu fais et qui te kiffent.
Bah
Et les autres, ils s'en
on a
foutent.
l'exemple. Ouais, j'ai deux exemples très simples. Le premier, les Français, c'est William Pillet.
Ouais.
William Pillet, là, il est en train de tout éclater parce qu'il a fait Incroyable Talent et que les gens ont
Ouais.
capté son délire Incroyable Talent. Et alors qu'on savait depuis des années que ce mec était trop fort et que, tu vois, nos copains, notre copine du Spot du Rire l'a repéré il y a des années, elle disait, mais ce gars-là, il est imbattable. Et en
Ouais.
festival, il était imbattable, mais le grand public n'avait pas accès à lui.
Ouais.
Maintenant que le grand public a accès à lui, ben, ils comprennent que ses blagues sont fous, quoi, sont folles et que le gars est un malade sur scène et qu'il a vraiment quelque chose, un univers à proposer. Et deuxième truc, on y reviendra plus tard sûrement dans un autre épisode, parce que j'avais prévu d'en parler aujourd'hui, mais on n'y arrivera pas. C'est un documentaire sur Comedy Store, donc qui est le gros comedy club de Los Angeles, le comedy club historique de Los Angeles dans les années 70, c'est celui qui a fait la pluie et le beau temps dans l'ère du stand-up moderne. Il y a aussi régulièrement cette tendance à avoir des comédiens qui reviennent à zéro, qui modifient tout leur acte, tout ce qu'ils sont pour se réinventer. Et le cas le plus flagrant, c'est Jim Carrey.
Ouais.
Jim Carrey, il arrive, il est très jeune, il a 17 ans, il arrive du Canada et il fait des imitations et c'est le roi de l'imitation.
Ouais.
En 2 secondes, il fait des imitations à vous, jusqu'au point où il connaît quelques échecs au cinéma et il dit, bon, j'arrête les imitations, je redémarre à zéro.
Ouais.
Et là, il va bider, 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 chaque soir, bider, bider, bider. Mais comme la propriétaire du lieu l'aimait bien, elle a laissé faire. Mais pour qu'il retrouve un style, pour qu'il retrouve le chemin de la victoire, ça a été long. Mais il a remis en cause tout ce qu'il faisait. Pareil, accessoire, pas accessoire. Il a arrêté le fait, quoi. Déjà, il n'était pas tellement dans le stand-up. Il n'a pas cherché à faire du stand-up comme tout le monde faisait à ce moment-là.
Mais oui, mais c'est ça, de toute façon, c'est pas compliqué. Tous les gens que tu admires et que tu vas t'intéresser à leur vie, ils ont tous cassé les codes à un moment ou à un autre. Ils ont tous eu un truc, ils étaient déjà pour faire du stand-up, tu es déjà un poisson en dehors de l'eau dans ta vie, et après, une fois que tu es dedans, comment tu vas faire pour voilà, comment ah, quel est le truc que tu vas choisir de faire pour arriver à ton but. Eddie Izzard, c'est spectacle de rue avec un partenaire. Ils faisaient leur spectacle. Puis je pense 15 ans, 16 ans, Eddie Izzard, le mec était sur un monocycle avec les mains monotées, machin, et il se casse la gueule et tout. Il fait des spectacles dans la rue. Mais toutes ces années. Et après, il a commencé à faire un solo parce que son partenaire est parti en vacances. Il dit, ah merde, tu vas voyager. Bon, je vais le faire maintenant. Et toute l'expérience qu'il avait gagnée à ramasser des gens dans la rue, à les faire venir, etc., à leur parler pour qu'ils restent un petit peu, c'est un spectacle de rue, il faut un certain nombre de personnes pour que ça arrête d'autres personnes dans la rue. Et là, tac, tac, voilà, après il passe à la télé, et en 3 minutes, boum. Mais on voit les 3 minutes, on dit, ah ouais, super, mais on ne voit pas les 15 ans que le mec était dans la rue à jouer tout seul. Mais ça, et avoir justement le courage de faire des trucs comme ça, c'est. J'ai un pote, non, un de mes profs de stand-up a commencé au même temps que Jim Carrey dans le même club. Ils étaient potes tous les deux
Incroyable.
au début. Et eux et Norm Macdonald, pareil. Ils ont tous commencé ensemble, sauf que Jim, mon prof, il a fait carrière au Canada. Au Yuck Yuck. Les Yuck Yuck, c'est une chaîne de club de comédie. Et lui, il avait son petit 20 minutes ou 130 minutes et il faisait que ça. Il allait, il faisait une semaine ici, une semaine là, une semaine là, une semaine là, genre presque comme un commercial. Et il a fait ça 20 ans et il gagnait bien sa vie. Alors que Jim Carrey a pris la bagnole, une vieille bagnole, et il a conduit jusqu'à Los Angeles pour aller essayer. Et tu vois, ça, tu vois la différence, quoi. Tu peux être compétent, mais ceux qui sont vraiment énormes, ce sont ceux qui ont pris de gros risques et qui ont tout donné. Par contre, c'est pas parce que tu donnes tout que tu réussis, mais ceux qui ont réussi, ils ont fait quelque chose. Donc il y a aussi.
Rétrospectivement, et quand ils le font, ils s'en aperçoivent même pas en fait, hein.
Ben
C'est juste
oui.
qu'à un moment, ils ressentent le besoin. Et grâce à toi, j'ai eu accès à des masterclass de stand-upers, et j'ai vu Sir Bill Connolly.
Ouh, Bill Carley, mon idole de
Tu vois
toujours.
là, qui est ton idole, et je regarde, et le gars, en fait, il dit, moi j'ai commencé, j'étais joueur de banjo.
Ah oui.
Et il y a un disque qu'ils auraient, tu le vois, jouer du banjo, et en fait, c'est un jour, pour accompagner, il veut chanter, et il oublie les paroles de la chanson. Et comme il oublie les paroles, il dit, je vais vous raconter ce qu'elle est censée dire, la chanson.
Ah
C'est l'histoire de moine qui voit. Et quand il fait ça, tout le monde rigole.
ouais.
Et il met de plus en plus, je pense, de choses comme ça dans son acte de banjo.
Ouais.
Et un jour, il y a un journal qui met le comédien et musicien Bill Connelly. Il dit, ah, maintenant je suis comédien.
Ouais.
Et c'est là qu'il se dit, bah ouais, en fait, ça le révèle en tant que comédien, mais lui, il ne s'aperçoit pas qu'il est en train de virer comédien.
Oui. Ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chez lui, c'est que il a l'humour d'un ouvrier britannique. Et ça, il disait qu'il travaillait dans les chantiers des bateaux à Glasgow, et où c'est que des mecs, et voilà, c'était des métiers dangereux avec de l'amiante et tout, vraiment l'industriel plus, plus, plus. Et que quand il réussissait à faire rire les anciens, donc les mecs qui étaient là depuis plus longtemps que lui, c'est là où tu étais accepté dans le truc. C'est un peu comme le même humour que tu trouves dans la restauration, dans le bâtiment. Tu as des trucs. Voilà, des blagues. On est là toujours, l'armée, la blague. Et ça, c'est un truc très intéressant. Et c'est aussi, triste qu'on essaye de rendre l'humour plus hygiénique, plus inoffensif, parce que les soldats, l'humour à l'armée, c'est si tu peux supporter que je te défonce en humour et toi, tu me le rends pareil, je sais que je peux compter sur toi dans les tranchées. Et l'humour, dans ces lieux-là, c'est vraiment un truc qui va fédérer des gens. Et après, oui, il a gardé ça dans sa... Cette violence, qu'il a gardé ça dans ses propos. Et ça fait que... Ouais. Et le mec, il n'a jamais écrit une blague. Et c'est ça qui est génial.
Et cette histoire de respect aux anciens, on le retrouve dans le documentaire Headliners Only. Et en particulier, ils disent, Chris Rock et Kevin Hart, ils disent, mais nous, avant, quand on voyait un comédien plus ancien, qu'on voyait nos idoles, on baissait la tête, on disait, monsieur, j'aime ce que vous faites, et tout. Et il dit, ces dernières années, c'est pas pareil. Les gens, ils arrivent, c'est, ah, tu me connais pas, tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, tu n'as pas vu, j'ai 200 000 followers, j'ai 300 000 followers. Ils sentent qu'il y a eu un changement des valeurs.
Ah bah oui, bah oui.
Si tu ne les suis pas sur Instagram, tu as l'impression de les avoir trahis.
Ah oui. Ah oui, mais c'est ça. C'est vraiment cette... Oui, c'est ça, c'est l'ego. Mais ça, c'est aussi un truc générationnel, j'imagine, parce que j'entends parler de ça, genre que la nouvelle génération, ils veulent tout de suite. Genre, ils veulent commencer dans une entreprise avec un poste à responsabilité. Tu dis, ouais, mec, mais oui, mais tu connais pas le métier. Si, si, je veux pas travailler au SMIC, moi. Moi, je veux ça, maintenant. Et il y a beaucoup de travail gratuit, au moins dans la comédie, dans le stand-up. Beaucoup de travail gratuit, beaucoup de mentoring, beaucoup de trucs. Maintenant, il y a une statistique que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié précisément ce que c'est. C'est que je pense que c'est un tiers ou deux tiers, je ne me souviens plus, des gens de moins de 30 ans, ou un truc comme ça, qui pensent qu'ils vont gagner leur vie en produisant du contenu sur Internet.
Là, c'est
ça, mais c'est un truc, c'est explosif. Parce qu'il n'y a pas assez de consommateurs de contenu sur Internet pour consommer le rêve, ou pour transformer le rêve des gens qui se disent « Non, je vais faire du contenu et je vais gagner ma vie avec. »
Mais entre vouloir et le faire, il y a...
Ah oui.
Mais je ne dis pas le faire, le réaliser financièrement. Le faire concrètement. Combien de gens qui ont dit bah, « Là, c'est le moment où je me lance sur Instagram et qu'ils sortent une demi-vidéo. »
Ouais.
Une vidéo, ou alors à des gens, je rencontre des gens qui me disent « Attends, j'attends d'avoir le dernier iPhone et tu verras quand j'aurai le dernier iPhone, j'aurai le mode cinématique à ce moment-là. Tu verras, il y aura du flou derrière, je pourrais faire noir et blanc. » Waouh, il m'a l'air compliqué ton plan. Prends ton téléphone, filme-toi et s'il y a un truc cool, ça passera. T'inquiète pas.
Bah oui.
Mais eux, ils sont persuadés que c'est en ayant accès... Je sais pas s'ils retardent leur entrée dans le game ou si c'est un palliatif pour le cerveau de dire « Non, mais ce qui m'empêche de faire aujourd'hui, c'est que j'ai pas le bon accessoire. »
Oui. Moi, je suis victime de ça. Je suis là avec la technique. Ah oui, si j'ai ça...
C'est vrai?
J'ai acheté un truc, par exemple. C'est pas... C'est, pour mon perso, c'est compliqué dans le sens où la récompense immédiate ne m'intéresse pas tant que ça. Et du coup, là, par exemple, de poster sur les réseaux, j'ai très peu de choses à dire comme ça. Et donc, je ne le fais pas trop, mais j'ai pris un abonnement pour Social Pilot. Et Social Pilot, c'est un truc avec lequel tu peux programmer tes posts. Comme ça, tu programmes, tu fais le post et le truc, il va te le poster sur Insta, sur LinkedIn, ouais, sur Facebook, sur machin. Et comme ça, je me dis, OK, comme ça, je fais mes posts, tac, tac, tac. Et après, ça se poste tout seul. Mais même ça, je ne fais pas, tu vois. Et ma chaîne YouTube, c'est drôle aussi. Longtemps, j'ai foutu les passages en entier. Genre, je fais 20 minutes de beat, je m'en bats les couilles, je fous ça en entier sur YouTube. Bien sûr, personne ne regarde ça. Et c'est un vrai truc et je sais que pour être vu, il faut passer par là. Et je cherche au moins la méthode, c'est même pas la motivation, c'est la discipline, c'est trouver la discipline de le faire. Parce que tu vas pas être motivé tout le temps. Et si tu attends d'être inspiré ou motivé pour faire des trucs, tu les feras jamais.
Je vais citer mon pote Paco. Te le dira 100 fois. Et c'est quoi l'objectif?
Bah oui. C'est ça.
Et quand tu auras l'objectif, tu vois, nous, on a vraiment un truc, je le répète, et c'est pas un truc qui est privé entre nous, c'est un truc, je répète, c'est une méthode open source que je vous donne, que je répéterai toute ma vie. Objectif, plan, routine. C'est quoi l'objectif? On va le fixer précisément. Il va y avoir une date, une quantité, quelque chose que vraiment on peut nommer. C'est quoi le plan pour y arriver? C'est-à-dire, c'est quoi toutes les étapes que je dois faire pour aller, tout l'ensemble des tâches que je dois faire. Et la routine, c'est quelle force je consacre à quelle fréquence pour y arriver. Sans ça, moi, je n'arriverai pas à faire les gros projets. Je n'arriverai pas à faire de spectacles, de livres ou de choses comme ça parce que
Ah oui.
ça serait trop flou.
Bah
Donc,
oui.
quand j'arrive à découper la tâche, à me dire l'objectif, c'est sortir un livre tel jour, on découpe la tâche. Après, là, par exemple, en ce moment, ensemble, toi et moi, on parle de traduire le guide Ultimate Stand-Up, de l'adapter en anglais. Forcément, j'ai une fenêtre de sortie. Donc, je
Ouais.
connais l'objectif, je sais déjà la fenêtre de sortie. Maintenant, je suis en train d'évaluer le travail qu'il y a à faire.
Ouais.
Et après, on va avoir la routine chaque semaine des outils pour vérifier ce qu'on fait,
Ouais.
où on va. Et je vois si je vais avoir entré dans un processus qui est très clair pour moi. Parce que si c'est flou, il va y avoir de la frustration. J'aurai du mal à évaluer où on en est.
Ouais.
Et on va faire des erreurs. Alors que là, on va rentrer dans un tunnel et on sent exactement pourquoi on fait chaque action et pourquoi des semaines on consacre 20 heures et pourquoi des semaines on n'a qu'une heure à y consacrer parce que ça ne répond plus aux mêmes besoins.
Bah oui, c'est ça. Là, par exemple, j'ai eu une conversation, justement. J'ai été approché par des scénaristes américains. Ils sont en train d'écrire ils ont écrit un film. C'est un film d'horreur musical. C'est très drôle. Et donc, j'ai passé du temps à parler avec l'écrivain principal de ce script. Et ça, c'était très drôle parce que je lui demande à un moment, sinon, niveau moyen, vous êtes comment pour le faire, etc. Et là, il me dit un truc vraiment à l'américaine. Il me dit, I come from a quite decent amount of money. Wow!
C'est pas mal, hein?
Ah oui, mais quand un Américain te dit qu'il vient d'un. Qu'il vient. C'est ça, c'est ça. C'est pas que ah, j'ai gagné une loto. Non, je viens d'une quantité d'argent assez raisonnable ou assez décente. Je dis, putain, le mec, il est millionnaire. Bon. Et bon, après, justement, je dis, bon, la mesure du succès, comment on fait? Parce que si tu veux que je te dise ce qui va pas dans ton script, mais je lui dis un petit peu, il dit qu'il était d'accord avec moi, super. Bon, comment on fait pour justement pour que ce soit, pour qu'on puisse mesurer le succès et avancer sur le truc? Et là, c'est Kevin Hart justement dans son livre qui dit que chaque fois, une fois dès qu'il a fait le Plastic Cup Boys qui apparaissent, il y a une petite référence à les Plastic Cup Boys,
C'est son entourage, hein.
c'est
C'est
son
vraiment sa
entourage.
bande de potes qui, à la fois ses potes qui font ses premières parties, et on s'en aperçut dans son précédent spectacle et tout, ce sont ses auteurs, hein, en grande partie.
Mais oui, c'est et ils éditent, ils sont là à lui faire des retours, tac tac, ça va pas, ta ta ta. Et eux, quand ils ont commencé, et c'était pas, bon, il a commencé en 2000 ou avant les réseaux sociaux, il était là et il faisait des mailing lists, le mail, chaque fois qu'ils allaient quelque part. Mais ils se mettaient, mais chacun, tout le monde en train de flyer, tout le monde en train de truc, et après, la prochaine fois que tu viens dans la même ville, tu envoies un mail à ces gens-là.
Comme
Et
Louis
là,
C.K.
boum. Et finalement, et on en revient à ça. Ça fait drôle parce que le mailing list, c'était à avoir un truc à faire, j'ai envie de faire ça. Maintenant, tu es sur les réseaux, mais sur les réseaux, maintenant, tu dois, sur Facebook ou même sur Insta ou TikTok, tu dois payer pour que tes abonnés voient ton contenu. C'est un délire. Alors que le mail, tu dépends pas d'une plateforme. Donc, si tu dis un truc qui ne va pas, on te vire on te laisse dans la paille. Tu as le contact direct des gens qui te suivent.
Sûr.
Et après, oui, t'as moins de contrôle exactement de ce que tu dis ou quoi. Mais tu sais que y a plus de chances que les gens voient ton contenu. Et eux, ils étaient déjà là à flyer, à noter les adresses mail, boum, 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 boum. Et là, voilà, c'est une
C'est très
industrie à elle toute
puissant.
seule.
On sous-estime le pouvoir des adresses mail. C'est super puissant. Nous, les tournées que l'on fait en bus en Bretagne, on a notre base de données, on mail. On a des outils pour ça et vraiment, c'est ce qui. Quand d'un coup, d'une année à l'autre, tu reçois le mail, ça y est, on est de retour dans votre ville, ça y est, on a touché les gens qu'on voulait toucher.
Bah oui, bah
On
c'est
est
ça.
revenu et donc, ils vont pouvoir prévenir en amont leurs amis et sont réalisés pour être là le jour J.
Oui, c'est
Et
des ambassadeurs en plus.
Ils sont motivés. Pareil, je sais que des artistes comme Verino, ils comptent beaucoup sur ça. Et pourquoi pas, en fait, parce que tu récoltes le fruit de tout ce que tu as fait les années précédentes. Et moi, je suis toujours, toujours, toujours vraiment époustouflé par les conversations que j'ai qui sont très frustrantes avec des comédiens et comédiennes. Je leur dis, mais vous avez les mails des gens qui sont là ce soir? Ah non, comment je fais pour les récupérer? Je dis, ok, mais vous savez d'où ils viennent? Ah, mais comment je pourrais le savoir? Alors que dans ma tête, j'ai 30 façons de le savoir. Et je dis, ouais, bah ok, c'est que tu n'es pas encore câblé pour la prochaine étape.
Ouais, c'est sûr.
Et Chris Rock, Kevin Hart, forcément, très vite, il y a Monsieur Dave Chappelle qui arrive. Mais qui arrive au début, il est juste intervenant dans le documentaire et il parle de New York, de l'énergie qu'il y a à New York. Et il raconte un truc qui me parle parce que je le vis à une moindre échelle à Paris. C'est il disait que lui, des fois, il pouvait travailler 14 fois dans la même soirée.
Bah oui.
Et à chaque fois, il faisait un set de 20 minutes.
Oui, ouais.
Et donc, il disait, bah, dès le deuxième set, tu avais une idée, tu pouvais le jouer 11 fois de suite. Et ça revient à cette idée que tu avais apportée, qu'à Los Angeles, tu te montres et qu'à New York, tu travailles.
Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est moi, j'avais calculé, je m'étais trompé, je crois qu'il avait dit il jouait 20 fois 20 minutes. J'ai dit, putain, mais ça fait plus de 6 heures. Mais non, c'est 13 fois. Mais quand tu vois le temps de scène en un soir, si tu passes, je sais pas, 3 heures, tu as 3 heures de scène le même soir, c'est génial. Et c'est comme ça que Louis C.K. a failli se tuer à cause de ça, justement. Parce qu'il s'est acheté une moto et il a failli se tuer. Bah,
Ben nous, on a pas mal de comédiens à Paris qui se déplacent en scooter aussi, qui vont d'un comédie club à l'autre. Et moi, pour l'instant, je suis très. Bon, déjà, je passe scooter, ça m'énerve. Mais je suis encore très, très, très poli. Mais c'est normal, tu vois, le truc, quand j'arrive au comédie club, je suis désolé, je suis pas arrivé au début parce que j'avais un autre comédie club avant. Et je suis désolé, je pars avant parce que j'ai ci. Et les gens, ils font, non, mais il n'y a que toi qui t'excuses parce que tout le monde fait ça, en fait. C'est Paris. Arrête d'excuser, c'est Paris. C'est normal que tu enchaînes des comédie club et que tu puisses pas être là au début, pas être là à la fin. On t'enverra le chapeau via Lydia. Et avance.
Oui, parce que bon, quand on est en... Ça, c'est drôle. On est en province, on a l'habitude. Tout le monde est là, genre, t'es
Du
là.
début jusqu'à la fin.
Oui, on arrive genre 45 minutes avant, t'es là, tu attends. Et après, je pense que ça peut être bien et ça peut être aussi dur parce que quand t'arrives, tu vois monter la sauce un petit peu de la salle. Et si la salle est bien, tu te motives, t'es bien. Si tu vois que ça va être une galère, tu t'es déjà en échec avant de monter sur scène.
Tout à fait.
Et après, si tu débarques, ouais, bonsoir, et tu vois, et tu te rends compte de comment est la salle au moment de commencer, ça peut être compliqué aussi.
Moi, j'essaie de me soustraire à ça, tu vois, de plus comprendre. La plupart, 90% des comédie club, j'essaie de pas comprendre l'ambiance qu'avant. Je veux juste monter en étant 100% moi-même. Et ce qui est drôle, c'est un que j'ai fait récemment. J'avais pas écouté l'ambiance et tout. Et quand je vais voir le. quand le MC m'envoie, quand je le crois sur scène, il me tend un micro et me fait.
Ah oui.
Je suis, oh là là, tu m'as donné la pire énergie.
Ah oui.
Et effectivement, c'était un public.
Ouais. Et ça, mais alors, puis pour faire ça, je pense que c'est vraiment important de faire soi-même, d'être soi. Parce que j'ai vu, par exemple, l'énergie de la personne blasée. Beaucoup de gens font ça. Moi, j'aime le faire quand j'y arrive. J'aime le faire. Mais j'aime que ce soit honnête. Et c'est pas genre jouer le mec blasé. C'est si t'es fatigué, t'es blasé. Habite cette émotion. Et c'est très drôle. Par contre, on fait une soirée où trois humoristes avaient la même énergie blasée. Et là, tu te dis, ah ouais. Alors que pour chacun, c'est un choix d'aller jouer cette énergie blasée.
Ouais.
Et quand tu as trois,
Ah, c'est relou, hein.
c'est relou. C'est
Mais qu'est-ce
pareil.
qui perd? Tu peux pas changer de plan non plus, hein, si ton acte c'est ça, tu.
Mais du coup, c'est ça, mais si ton acte te ressemble vraiment le plus possible à toi-même, bah, tu arrives, c'est toi, quoi. Et tu ne vas pas comment dire, te priver d'être toi, ou tu ne vas pas tomber dans le truc où tout le monde a déjà fait la même chose, tu arrives et tu as aussi une blague sur les Juifs, quoi.
C'est
Alors,
une bonne
ok.
indication aussi, je pense, de la qualité de ce que tu fais.
Ben
C'est-à-dire,
oui.
si souvent ce cas de figure arrive, c'est « Ah là là, je fais un truc trop commun » ou alors « Je le fais pas de façon assez extrême pour éteindre les autres.
C'est ça. Et ça, c'est compliqué, hein. Mais si t'arrives et que c'est toi et que c'est honnête et que c'est vulnérable et que ça te ressemble, bah, partout où tu seras, tu ne peux qu'être toi. Mais quand tu veux essayer de faire les codes, machin, pareil, est-ce qu'il y a des couples dans la salle? T'arrives, ils sont actes, c'est ça. Il y a déjà le quatrième qui
Une
pose
glace
la
à la
même
vanille, hein.
question.
Si tu as une glace à la vanille, ben ouais, ben voilà, c'est.
Ouais.
Et ah ouais, ce truc des coupes, c'est terrible. Hein. C'est arrêtez, quoi, excusez-moi, mais arrêtez avec ça. Hein. Arrêtez de suite avec ça. Moi, je. Ça n'apporte rien. Que LMC le fasse, si ça lui chante et tout, mais ça n'apporte rien. Il y a des couples, des célibataires et tout. Franchement, je te jure, je vois rarement ça transformer en truc marrant.
Ah oui, non, non, non.
Alors, et je vais te donner l'exemple d'un mec qui le fait d'une façon cool. Thomas Marty, il dit qui c'est qui les vieux couples, qui c'est qui a plus de 30 ans ensemble. Tu vois, il l'amène d'une façon originale pour arriver à un propos qui est et les vieux couples. Comment ça se passe quand ça fait 40 ans que tu avais quelqu'un
Ouais.
et il le ramène à lui-même. Et moi, je me dis, ok, c'est un peu la même histoire, mais au moins traité d'une façon qu'on n'a jamais trop entendue et qui sert un propos.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est Nalé et pareil. Kevin Hart, quand ça a commencé vraiment à accrocher pour lui, c'est quand il parlait des épisodes de violence à la maison où une fois il a giflé sa meuf, elle a appelé la police, où il y avait un truc comme ça. Après, c'est elle qui commençait l'embrouille, qui voulait le taper, et lui il appelle la police parce que il voulait pas qu'elle le tape. Et t'imagines, t'appelles la police, ouais, si j'ai peur que ma femme me tape, et les gens ils se foutent de ta gueule. Et après, quand tu y vas, bah, les gens vont rigoler à ça. Mais beaucoup de gens vivent des choses qui sont similaires aux tiennes. Et ouais, donc oui,
Ils sont
essayez
accrochés à ça.
un
Hein.
max d'être honnête, quoi.
Et Kevin Hart, tu racontes une anecdote où c'est des Patrice O'Neill qui, en plein milieu du sketch de Kevin Hart, lui jette un annuaire dans la tête. Hein.
Ouais.
Une espèce de bizutage un peu bizarre
Ouais.
pour dire arrête tes sketchs et lis l'annuaire maintenant.
Ah oui, c'est ce que tu fais, c'est tellement nul, autant lire l'annuaire aux gens. Et c'est drôle parce que Kevin Hart, justement, dans son livre, il parle des salles compliquées. En plus, aux États-Unis, il y a les salles noires, les salles blanches. Ça, c'est un truc de fou. Donc, une salle noire a des codes différents d'une salle blanche. Et que Kevin Hart, justement, il disait que le jour, un des moments marquants de sa carrière, c'est quand il a réussi à dominer une salle noire où les mecs, ils sont là. Et il y a du stand-up et leur truc entre potes, c'est de faire pleurer le comédien, quoi.
C'est
C'est
des
leur
haters,
limite.
c'est vraiment des gens qui sont là pour interagir de façon négative et te tester. C'est un peu un truc de gang, ils veulent te
C'est
tester.
ça, c'est ça. Et si tu tiens et que tu réponds, et c'est là qui est drôle, si tu tiens et que tu réponds et que tu envoies une mandale dans la gueule de la personne, bah, là, ils te respectent parce que tu te laisses pas faire. Moi, pareil, j'ai posté un truc là, de Hide the Pain Herald, que moi, avec mes élèves, je dis, bon, vas-y, il faut me roaster. Allez. Et après, ils me roastent, et quand ils le font vraiment, tu es là. C'est drôle, c'est bien. Parce que c'est. Bah, il faut y aller, quoi.
Je t'ai déjà dit, moi j'ai vu les mentalités dans le roast. Il y en a qui sont là pour te faire des blagues. J'ai mon Tristan Lucas, par exemple, lui, il aime bien faire des petits. Il appelle ça érotissage. Il fait ça avec les artistes de ses plateaux.
Ouais.
Et sachant ça, je me dis, bah, tu vois, on avait un plateau ensemble. Je lui fais, bah, si tu le fais, j'ai quelques blagues sur toi.
Ouais.
Et en fait. J'ai dit une blague, ouais, mais là, c'est plus du roast, tu vois, c'est une intifada, quoi.
Ah oui.
Ouais, parce que j'ai fait, moi, je ne suis pas là pour te roaster, je suis là pour arrêter ta carrière. Tu vois, ma mentalité quand j'ai abordé le roast, c'est je veux qu'à la fin du roast, j'ai plus jamais envie de faire du stand-up. Parce
Ah
que
oui.
j'ai tellement déconstruit ton personnage, tes défauts, que te disent, ah ouais, ma vie, elle vaut pas le coup d'être vécue comme ça.
Ah oui, mais ça c'est de la qualité. Il y a une émission anglaise qui ont fait ça, mais c'est waouh. C'est vraiment une.
Le Rose Battle?
Ouais, un truc, mais
C'est trop
en
bien.
Angleterre.
Ah
Et
ouais,
là,
c'est
tu
trop,
vois.
trop bien.
Tu vois ce qu'il y a. Voilà. Et une qui a perdu sa mère dans un accident de voiture. Bam, bam, bam. Et l'autre parce qu'elle est grosse et bim. Et c'est des trucs. Tu dis waouh.
Ouais,
Handicap, il se
même les
mange.
couples. Même les couples, ils se racontent des trucs incroyables, hein, les couples dans cette émission.
Ah oui,
Rose
ah
Battle,
ouais.
ça se trouve sur YouTube et c'est assez facile à comprendre. Et vous. verrez qu'il y a quelques personnes comme ça a plusieurs années d'émission. Il y a des gens où vous dites, ah, mais c'est bizarre, mais non, il a son spécial sur Netflix, lui. Ah, c'est
Ben oui.
bizarre, mais lui, je l'ai vu sur ça, parce que c'était, à mon sens, aussi une très bonne antichambre de qui était en forme en stand-up à ce moment-là.
Bah oui, et ce qui est drôle, moi ce que, comme je le vois, ce genre de truc, c'est déjà, d'une, c'est une forme d'amour, et l'autre, c'est tu montres ton game d'écriture. Alors, parce qu'une forme d'amour, dans le sens où pour écrire une blague qui va défoncer quelqu'un, bah, cette blague, si tu l'écris vraiment pour cette, ou contre cette personne, bah, c'est une blague que tu ne peux faire qu'une fois avec cette personne. Et là, tu as mis du temps de ta vie pour faire une blague sur cette personne-là. Donc, il y a quand même un investissement. De relations et souvent les infos que tu as, c'est la personne, la victime qui te les donne.
Te les donne, c'est une préparation en amont, vous échangez
C'est
des
ça. Et
infos.
là, tu montres que tu sais écrire. C'est pas un truc que tu as répété que 40 000 fois, que tu as des feedbacks, etc. Non. Tu l'écris et tu as une opportunité de le sortir. Et là, il faut que ce soit bien, parce que sinon, tu perds. Et c'est très bien.
J'ai eu l'occasion récemment de réfléchir au roast parce que j'avais un camarade comédien qui, lui, est sur l'émission d'Amazon, et on se doutait qu'il pouvait y avoir ce type de demande de la part d'Amazon à un moment de faire un roast.
Ouais.
Et en fait, pour bien le câbler, tu vois, j'ai dû rappeler une base et j'ai fait attention il faut que l'information que tu aies sur l'hôte, il faut que tu la rendes évidente.
Mais oui.
Si c'est une information que tu es le seul à voir ou que les gens auront du mal à comprendre, tu ne pourras pas t'appuyer sur cette supposition. Par contre, si tu dis c'est too much, oui, il a pas le permis, il a 30 ans, ok, c'est pas évident à savoir. Par contre, si le gars, il a manifestement, ça se voit qu'il est pas soigné, qu'il est un peu négligé, là, tu vas pouvoir direct te dire, hey, je peux m'appuyer sur le fait qu'il ressemble à un clochard.
Mais oui, c'est ça, c'est ça. Moi, il y a un truc, c'était le roast de David Hasselhoff, qui faisait K2000
Alerte à Malibu.
Alerte à Malibu. Et le mec qui fait ça dit, ah, Pamela Anderson était allée voir David Hasselhoff, lui a dit, non, mais David, j'ai un peu peur, parce que on fait un truc, mais moi, je ne sais pas nager. Et David qui lui dit, mais t'inquiète, moi, je ne sais pas jouer, et je suis le personnage principal. Et oh, putain. Et vraiment, parce qu'il joue comme de la merde, il était bourré tout le temps. Et bim, bim, bim. Et ça, c'était très drôle. Voilà. T'inquiète.
Et dans le documentaire Headliner Only, on aperçoit un truc aussi, c'est que Kevin Hart et Chris Rock n'ont pas les mêmes contemporains, puisqu'ils ne sont pas de la même génération.
Ouais.
Chris Rock, ses contemporains, c'est Adam Sandler, Colin Quinn et Jerry Seinfeld.
Ouais.
Et Kevin Hart, ses contemporains, c'est Bill Burr, Patrice O'Neill, Louis Anderson.
Ouais.
Et c'est.
Ouais, c'est d'autres générations, quoi.
Clairement.
Et ça, c'est très drôle. Et une petite parenthèse, premier stand-up de Adam Sandler. Je l'ai vu sur YouTube. Il fait une blague, il dit qu'il est dans un New York, voilà, tout à New York, tout est chelou, il est dans le taxi. Le taxi avance. À un moment, le taxi s'arrête, le chauffeur sort, il sort de la bagnole, il va poignarder un chien, il tue le chien, il rentre dans le taxi, il repart. Et Adam Sandler qui fait, excusez-moi, monsieur, je vais pas payer pour le temps que vous étiez arrêté. Hein. Tu dis, waouh, l'univers de ce truc.
Sandler,
C'est.
vraiment, je le répète, il y a son spectacle, son dernier spectacle qui est sur Netflix.
The
Si
Fresh
vous,
Up, non? Ah,
ouais, si vous
fresh.
voulez voir un mec s'amuser, il y a vraiment un plaisir manifeste, ça se voit qu'il s'éclate à faire ça. En plus, il est capté d'une façon un peu particulière, c'est qu'il a été capté dans plusieurs salles.
Ouais.
Donc, ça va de la petite salle intimiste jusqu'au stade. Mais vraiment, c'est le plaisir de voir un mec. Je rappelle quand même Sandler, c'est ses 10 premiers films, et ils font tous plus de 100 millions de dollars au box-office.
Mais oui, mais c'est ça, on voit. Mais c'est drôle, c'est le jugement des gens. Pareil, j'ai vu une vidéo sur quelqu'un qui parlait de Melville, là. Ouais, mec, ouais, j'ai regardé Incroyable Talent. Non, c'est pas drôle. Je trouve ça pas drôle. Voilà. Et que des gens que tu vois arriver quelque part, c'est rare qu'ils soient là par hasard. Maintenant, il y a un peu plus cette illusion que, bon, si t'as, je sais pas, quelques millions de followers sur TikTok ou quoi, tu seras invité à faire des trucs. Mais même ça, ce n'est pas un hasard. Donc, on a souvent tendance à croire que les gens arrivent et que tu comprends pas pourquoi ils sont connus, pourquoi ils sont accueillis dans certaines sphères, et tu te dis, bah, je sais pas comment il est con, etc. Mais non, s'ils font des films, Hollywood, c'est une industrie. Donc, s'ils mettent un mec dans un film, c'est que il y a quelque chose. Voilà, c'est ça.
Tu connais cette formule qui dit il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain?
Mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et
C'est
maintenant, c'est pour
Overnight
dire à
Story.
lui.
C'est pareil. Justement, c'est Kevin Hart, il dit ça dans son livre. Quoi? One Night. Je sais pas, A Star is Born. Ils ont ce moment-là de A Star is Born. Voilà, c'était un succès fou, un succès fulgurant qui n'a mis que 16 ans à arriver. Et c'est ça. Tu apprends, tu bosses et tu galères. Et après, oui, le jour où tu as de la chance, c'est ah, tu as de la chance. Mais non, tu n'as pas de la chance. Ça fait 16 ans que tu bosses. Et après, oui, l'opportunité viendra si tu es prêt. Mais des fois, l'opportunité peut venir et tu n'es pas prêt. Et ça, c'est ça tout le défi. Et savoir reconnaître qu'est-ce que c'est qu'une opportunité, qu'est-ce que ce n'est pas une opportunité. Et c'est compliqué. Mais à la fin du documentaire, moi,
Excuse-moi, ça coupe de mon
ce qui m'a
côté.
marqué un petit peu, c'est que finalement, quand il dit qu'il est jaloux, Kevin Hart, là, c'est là où je me sens jaloux, c'est que Chris Rock avait sa mère dans la loge.
Ah,
Et là,
excuse-moi,
tu te dis,
j'ai loupé une
waouh.
partie du discours. Je pense que tout le monde l'a entendu sur le podcast. Moi, j'ai un peu loupé
Ouais.
ce que tu as dit. Mais je vois où tu en es arrivé. Et
C'est
c'est vrai
ça.
que ce côté. Ouais, ils sont obligés de débunker le fait d'être jaloux, pas jaloux. Et ils sont obligés vraiment de l'adresser. Et il y a un truc que j'ai appris d'un documentaire que je n'avais pas capté, c'est que Dave Chappelle était la première partie de Chris Rock pendant un moment.
Ben oui.
Alors qu'on a l'impression que Chappelle, il est là depuis toujours. Non, Chappelle, il est arrivé à un moment, c'était un jeune Chappelle, et Chris Rock était une star avant que Chappelle soit une star. Hein.
Et ça qui est, je trouve drôle, et un peu je me plais beaucoup dans ce que je fais auprès de jeunes humoristes, c'est que il vaut mieux, je pense, être le mec. En plus, il a fait un AVC, là, le gars qui a ou deux AVC. Qui a lancé, qui a
C'était son
aidé,
mentor.
voilà, qui est son mentor, et il est là. Ce mec, personne n'a jamais entendu parler. On s'en fout de son existence. Ah, Kevin Hart, etc. Mais cette personne, à un moment donné, a su soutenir, a su challenger, a su pousser Kevin Hart. Et chacun, et ça, ce qui est intéressant aussi, chaque grand sportif, chaque grand artiste va avoir un idole, va avoir un mentor. Et les gens qui aident les autres, bah, c'est cool. Moi, c'est un peu, là, tu me disais que tu avais eu un bon chapeau et que tu étais en train de payer des coups aux petits qui viennent justement avec leur gamelle et essayer de gratter une petite place. Et toi, tu les invites à boire un coup et tu les accueilles, tu les respectes, etc. Bah, c'est beaucoup plus cool d'être dans le trivia, tu vois. Ah, tu sais que en 2023, c'est Briac m'a offert un coca alors que j'étais, je sais pas, et que tu soutiens les autres, parce que s'ils sont bons et qu'ils sont s'ils vont être les superstars de demain, ils seront les superstars de demain avec ou sans toi. Donc
Exactement,
autant
et puis
les
autant leur faire.
aider, c'est ça, et les pousser et être
Et
content
surtout,
pour
c'est
eux.
un esprit. Ouais, je veux, et je m'aperçois que certains comedy clubs, il y a un point de bascule. Des fois, ils te demandent, mais pourquoi ce comedy club, l'ambiance, elle n'est pas bonne? Ou alors, pourquoi ce comedy club, tout le monde me dit que ça ne sent pas bien, moi, quand j'y vais, je me sens bien, tout le monde est cool avec moi. Et vice-versa. Et moi, j'essaie de comprendre c'est quoi le point de bascule à chaque fois.
Ouais.
Et là, dans un comedy club que je fréquente assidûment à Paris, où je fais beaucoup de dates, il y a ces petits jeunes et tout, je me dis, OK, on a le mec qui a le comedy club, c'est le général en chef. Il prend les risques financiers et tout, il se fait chier, il répond à 1000 messages, ou alors il répond pas, parce qu'il n'a pas le temps. Nous, qui sommes ces comédiens qui fait les plus réguliers, on est des soldats. On est soldats, on doit venir, on fait nos trucs et on va se défoncer pour lui. Mais après, on a nos petits réservistes, les gars qui en veulent et tout, mais moi, et on doit leur dire, un jour, si vous comportez bien, vous allez prendre notre place, et c'est normal, et vous allez être bien, mais en attendant, on va prendre soin de vous, on va vous considérer, on va s'apercevoir que vous vous donnez du mal, je vais valoriser ce que vous faites parce que c'est pas évident, je vais leur expliquer encore une fois un truc qui est très simple, c'est que
Et c'est vous, c'est dur pour vous. Et je vous admire pour ça parce que moi, je suis intermittent. Moi, que je vienne jouer ou pas, je suis payé pareil, hein, là.
Ouais.
Je vienne jouer, je rentre chez moi, le loyer sera payé, je mangerai ce que je veux et tout. Vous, non? Alors, je vous admire. Et est-ce qu'il vous semble dur aujourd'hui, vous sentez que c'est dur et que ça vous écrase un peu la tête parce que vous êtes toujours tenté d'être chez vous à jouer à la PlayStation? Vous allez en récolter les bénéfices, vous inquiétez pas. Moi, je suis là, j'ai plus d'expérience, je vous le dis, vous allez en récolter les bénéfices. Et vous savez quoi, là vous avez fait du hors-chapeau, des trucs comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir joué ce soir, hein, j'ai fait un bon chapeau. Venez, on va prendre une assiette de frites ensemble. Et c'est rien, tu vois, ils pourraient se payer et tout, mais ça leur demanderait de sacrifier autre chose. Mais au moins, ils réfléchissent pas, ils boivent leur coca, leur truc, et ils sont repartis pour un mois à faire leur à gratter et à se battre.
Ben oui, c'est ça, c'est ça. Et des fois, c'est des tout petits trucs qu'on va attribuer des petits moments comme ça qui peuvent faire la bascule. Il y a Jimmy Carr qui raconte cette histoire. Dans ses spectacles, il demande aux gens d'envoyer des textos avant. Comme ça, s'ils ont envie de lui dire un truc, qu'ils envoient un texto. Il y a une nana qui a dit « Tu m'as sauvé la vie ». Et lui, il demande, mais pourquoi je t'ai sauvé la vie? Ah, parce que le jour où j'ai décidé de me suicider, je cherchais une corde chez moi, j'allais me pendre, etc. J'ai tout fait. Et il y a eu un moment, je ne sais pas, il devait attendre quelque chose. Et pendant ce temps-là, je me suis mis sur YouTube et je suis tombé sur ta vidéo. Et j'ai rigolé. Et j'ai regardé une autre. Et j'ai rigolé. Et j'ai rigolé, j'ai rigolé, j'ai rigolé. Et aujourd'hui, je suis là. Les mecs, ils racontent ça, tu dis, waouh! Parce que tu ne sais pas que voilà une petite action. Si tu soutiens quelqu'un, là par exemple, une de mes élèves, c'était trop drôle. Il faut que je trouve ça en blague. Et on était à la maison, elle me dit que la seule fois où je pleure avec ma psy, c'est quand je parle de toi. Moi, j'ai mort de rire, etc. Machin. C'était très puissant, ça m'a beaucoup touché. Et je lui ai rien dit parce que je suis un. Voilà. Mais qu'elle dise que moi, je suis la seule personne dans son entourage qui croit en elle inconditionnellement ou qui l'aime inconditionnellement dans le sens en tant qu'artiste. Genre, toi, c'est toi. C'est toi, tu suffis. Vas-y. Ton existence est suffisante. Et alors que, dans sa tête, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut ta 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 ta. Alors que c'est rien. Ça ne coûte rien d'encourager. Et bon, tout en
C'est une
étant
vision.
honnête.
Non, mais c'est une vision.
Quoi,
C'est une
c'est ça?
vision de qu'est-ce que tu veux apporter, qu'est-ce que tu veux laisser, comment tu aimerais qu'on se comporte avec toi.
C'est ça.
Je le dis quand je suis arrivé sur Paris il y a 10 ans. Je faisais jouer dans des chichas, je jouais des endroits où il y avait des gens forts, vraiment des gens forts. C'est un moment où il y avait Jason Brooker, Tania Dutel, on était tous dans la même chicha et tout. Et il y a un gars qui nous a quittés récemment qui s'appelle Waïd,
Ouais.
qui faisait partie de Jamel Comedy Cup. Ce gars-là, moi j'arrivais de Marseille, il m'a donné des créneaux. J'étais d'un style un peu particulier. Et je te jure, il m'a pris tête à tête à la fée. Il fait, non, mais tu es un humoriste, tu es un comédien. N'oublie jamais ça, tu es un vrai. Tu es un vrai, t'inquiète pas, ça va le faire. Et je m'en fous qu'il ait dit à 100 personnes ou pas, j'en sais rien. Mais moi,
Ah oui.
ça m'a boosté pendant des années. Quand j'y repense, je me dis, putain, la gentillesse du gars qui m'a donné confiance, quand je doutais, il m'a dit, non, non, ne te remets pas en question, tu es un humoriste, peut-être, tu n'es pas un humoriste de chicha, et je l'entends. Hein. Mais tu es un humoriste, tu as des pures blagues. Et voilà, lui m'a. Donc, d'où l'intérêt un peu des mentors, des trucs comme ça, c'est qu'il vous donne une direction et vous savez qu'ils sont là pour vous. Un bon mentor, il va vraiment vous aiguiller sur ce qui lui semble bon pour vous et pour votre carrière et pour votre hygiène personnelle.
Ouais. Et surtout qu'ils sont humbles dans le truc parce que ils savent d'où ils viennent et ce qu'ils ont fait pour y arriver. Moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un chemin, c'est un voyage. Et à un moment, tu montes dans le train, il y a déjà des gens dans ce train. Mais tu sais pas s'ils sont au début de leur trajet ou à la fin, ou peut-être qu'ils vont abandonner dans la semaine qui arrive ou quoi. Tu sais pas quel est leur truc. Et quand quelqu'un monte dans le train où tu es, bah.
Fais-lui de la place.
C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et laisse les gens s'exprimer sans et essaie de ne pas projeter tes propres trucs, tes propres peurs, tes propres. Ouais,
Il faut l'adresser, en fait, il faut y réfléchir.
c'est.
J'ai eu le cas, C'est Ali Bougueraba, le frère de Redouane, qui m'a beaucoup parlé de ça. Il m'a dit, tu vas voir, Bria, parce que quand j'ai commencé l'accompagnement d'artistes en tant que co-auteur ou metteur en scène, il m'a dit, tu vas voir, ça va te faire bizarre, c'est des gens que tu vas driver et vont être beaucoup plus connus que toi.
Mais
Et il m'a dit, il faut que tu sois en paix avec ça. Et j'étais déjà en paix, mais le fait qu'il me le dise, ça m'a permis de rajouter une couche de... Et quand je suis là à 100%, je suis là dans le projet et je suis là pour que ça explose et il n'y aura pas de frustration.
ben oui.
Et cette façon de penser me permet aussi le corollaire, c'est-à-dire de dire, et ce projet, je ne le ferai pas, je ne m'engagerai pas avec toi ou avec tel artiste. Parce que je sens que je ne suis pas connecté à ton futur succès, que je d'une certaine façon, je m'y reconnaîtrai pas si ça arrive. Et je ne te sens pas toi en tant que personne. Et j'ai besoin de te sentir en tant que personne parce qu'on va sur un voyage qui est long. Et je veux que ce soit harmonieux. Je veux qu'on puisse partir en vacances ensemble. Et c'est que ma vision, on n'est pas, vous n'êtes pas obligés. Hein. Et moi, en tant qu'auteur, en tant que je veux qu'on soit pote, je veux qu'on se fasse rire, je veux qu'on puisse partir en voyage ensemble, je veux que tes enfants ils me connaissent, je veux que mon fils il te connaisse, il te respecte. Et j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avancer comme ça dans ce projet-là. Et si ça pète, tu sais quoi, je suis tellement heureux pour toi parce qu'on sera tellement battus, on sera... mais ensemble.
Ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et aussi et si tu as cette attitude-là, tu vas pas être impressionné quand il y a quelqu'un de très connu ou quoi qui vient te demander de travailler pour eux ou avec eux, parce que tu le traites d'égal à égal, quoi.
Tout à fait, et tu poses des bases. Et par contre, moi, ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est vraiment à attendre un maximum quand on vient vers moi pour ce type de projet. J'attends. C'est-à-dire maintenant, je suis moins enthousiaste qu'avant. Je dis, OK, parle-moi. Viens, on parle. Viens, on va boire un café, viens, on parle. Viens, on va au cinéma, on parle. Viens, tu vois, des activités qui semblent anodines. Accompagne-moi à la boulangerie. Viens, on va à la boulangerie ensemble. Tu vas m'expliquer c'est quoi ton podcast? Ah, OK. Et c'était quoi l'idée derrière ça? Et qu'est-ce que tu prends là? Ah, tu prends un sandwich aux œufs? Ok. Et au fur et à mesure, on apprend à se connaître. Ah, tu as de la crypto-monnaie? C'est quoi ta crypto-monnaie? Et au fur et à mesure, ces conversations se font. Après, on pose les couches pour se dire, ah, viens, on regarde un truc plus ambitieux. C'était quoi ta problématique? Tu es venu pourquoi? Pour ça? Oui, par rapport à ce que tu m'as dit, je pense que ça peut bien se passer entre nous.
Ben oui, c'est ça, c'est ça. C'est de. Ouais, mais il faut aussi accepter, justement. C'est tout ce que j'ai vu avec des humoristes plus ou moins confirmés, des gens, tout le monde que j'ai connu, il y a toujours un problème d'autorisation et la seule personne qui peut la donner, c'est toi-même. Genre, moi, quand on vient me voir pour un script, j'ai eu des réalisateurs qui ont fait des vrais trucs, qui ont leur petite page IMB, machin. Des gens qui ont des boîtes de production, etc., etc. Je vais pas leur dire, hey, mais c'est toi le mec qui a une page Wikipédia, c'est pas moi, tu vois. Mais c'est pas ça. C'est moi, mon expertise, elle est existante. Et c'est avec l'échange qu'on fait ensemble que l'autre va voir, OK, ça me parle, ça me convient, ou ce mec, il sait pas de quoi il parle. Mais c'est ça, c'est être humble sans s'humilier. Tu vois, c'est un peu. Ça, c'est compliqué des fois, hein, parce que
C'est un dosage qu'on apprend au fur et à mesure. Pour bon, le documentaire sur Chris Rock et Kevin Hart, j'espère qu'on vous a donné envie de le voir. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a plein d'anecdotes dedans. Moi, c'est vraiment, j'ai pris du plaisir à le voir. Je vais juste vous donner, à mon sens, les deux derniers trucs qui m'ont marqué en tant que stand-upper qui parle de stand-up. Le premier truc, c'est l'échec. L'échec, il arrive dans leur vie, il arrive fort. Et l'échec, il n'arrive pas par hasard, c'est-à-dire il arrive à un moment où ils ont beaucoup d'espoir et cet espoir est balayé. Dans un cas, ça va être Kevin Hart qui a sa première sitcom, Big House, qui se fait annuler en fait quand les chaînes doivent, aux upfronts, c'est le moment de l'année où les chaînes décident quelle sitcom va être sérialisée ou pas. Mais lui, sa sitcom est annulée. Et maintenant, il va prendre une décision qui est très intéressante, c'est d'aller quand même à toutes les fêtes qui ont lieu pour ce moment précis de l'année. C'est comme si on vous disait, à Noël, toi, tu n'auras pas de cadeau, toi, tu seras au chômage, et que tu dis, non, mais je serai quand même à la réception, et je mangerai quand même un truc avec vous, je fêterai Noël, et je regarderai tout le monde ouvrir ses cadeaux. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est son propre agent qui le dit, le propre agent qui vient, qui dit, oui, Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que toutes les chaînes l'ont vu, tous les décideurs l'ont vu, et il a sympathisé avec tout le monde, et on bénéficie encore de son attitude de ce jour-là.
Ouais.
Parce qu'il s'est rendu aussi aimable dans le sens où, et c'est que le début de ma vie artistique, si vous avez autre chose à proposer, je suis là, et ensemble, vous inquiétez pas, ensemble, on aura des échecs et des succès encore.
Et ce qui est intéressant là, dans ce truc, c'est que il s'est endetté ce jour-là pour faire venir tout son le
Je
cast.
savais pas. Ça, tu le
Il
sais dans le
s'est
livre?
en... Ouais, tu le sais dans le livre et il te raconte ça dans le détail ou même il fait un chèque ou un truc comme ça en blanc à l'hôtel. Il a pas un seul centime. Il croyait qu'il y allait aller, donc il voulait pas aller tout seul. Et le producteur ou quoi de la série n'avait pas le budget pour faire venir les gens. Et je pense même qu'il a utilisé la carte de crédit de ses beaux-parents de l'époque. Donc, qu'il a claqué un max d'argent pour faire venir les gens qui travaillaient avec lui. Et là, non seulement il n'est pas pris, mais l'échec et aussi l'endettement, voilà,
Ouais.
perso. Et vraiment un truc, mais c'est comme un train qui s'est pris vraiment un train dans la gueule à grande vitesse. Et là, tu te dis, waouh,
C'est
putain,
beau, hein?
ça c'est très beau. C'est waouh. Et quand il te dit maintenant, il fait des trucs, quand tu gagnes de l'argent, c'est simple. Et quand il explique ce qu'il fait, tu gagnes, tu mets la moitié sur un compte. Ça, c'est les impôts, tu n'y touches pas. Et justement, au début, il gagne beaucoup d'argent, il claque tout, parce qu'il va pouvoir
Exactement.
s'habiller, se payer une bagnole, etc. Il perd tout. Ok, l'autre, après, ce qui te reste, tu divises en deux. Tu mets l'autre, un quart de ce que tu gagnes, tu le mets pour tes projets, pour tes investissements, etc., etc. Et tu ne vis qu'avec un quart du salaire qu'on te donne d'un film ou un truc comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font, qui ont beaucoup d'argent et du jour au lendemain, ils se retrouvent ruinés.
Avec l'IRS, là, tu te prends un redressement fiscal. Hein, tu
Ah
as...
oui, c'est tout. Il n'y a pas de pitié.
Alors, les petits trucs que j'ai notés, et en vrac, il y a une phrase que dit Chris Rock qui m'a beaucoup plu. C'est justement quand lui connaît des échecs, en particulier, il est casté au Saturday Night Live. C'est
Ouais.
censé être un événement parce qu'il n'y a pas eu de casting de Black depuis Eddie Murphy. Et en fait, il est sous-employé, ses sketchs ne sont pas retenus. Il emploie très mal. Et il retourne sur scène, il retourne en se disant bah, c'est là que je dois performer. Il dit le bien le plus précieux pour un comique est sa réputation d'artiste de scène.
Ah oui, ça c'est très marquant, ouais.
C'est fort hein, parce qu'il dit en gros, ok, tu n'auras pas la télé, ok, tu n'auras pas ci, pas ça, pas Amazon, pas Netflix. Mais dès le moment où tu es un bon artiste de scène, on ne peut pas t'enlever ça, c'est à toi, personne ne peut t'enlever. Et c'est ça qui fera ton futur succès, c'est ça qui fera que tu auras accès à un nouveau projet intéressant.
Mais oui, et surtout quand tu fais des trucs en groupe, moi je critique beaucoup le cinéma français, au moins les comédies françaises parce que c'est nul. Mais je me retrouve à faire de la merde moi aussi parce que j'ai écrit un film, j'ai écrit une courte pour quelqu'un. Ils ont enlevé la seule chose qui était à peu près drôle, ils ont tout enlevé et ils ont fait, mais c'est de la merde en barre. Mais du coup, il y a mon nom qui est associé à ça, mais. C'était pas mon intention de base en tant qu'auteur, mais ça, le reste ne m'appartient plus. Mais quand tu es finalement quand tu participes à un film ou une émission, etc., etc., il y a tellement de choses qui se passent entre ta prestation et pareil. Là, il y a la France 3 qui est venue me voir. On a fait un cours dans un bar parce que je suis passé à la télé là récemment et on a passé 1 heure.
En
Ils m'ont
tant que
entendu parler.
la dernière personne qui a vu Xavier Dupont de Ligonnès.
Oui, c'est ça, c'est moi, c'était moi. Je l'ai vu, il était habillé avec un slip guépard. Et on a fait 1 heure de cours et je passe genre 30 secondes. 30 secondes. Et tu ne peux qu'espérer qu'au montage, on ne te fasse pas avoir l'air trop con. Parce que tout peut changer. Mais justement, quand tu es toi devant ton public, il n'y a que ça qui compte. Toi
Et
et
puis
le
c'était ta
public.
valeur. Non, mais c'est au-delà de ça, c'est ta valeur. C'est-à-dire que tu... Quand on va venir te chercher, on va venir te chercher parce que tu es excellent dans ce rôle-là et que tu as une excellente réputation.
C'est ça.
C'est ton art, c'est ça que tu mets en avant. Et à la fin de la journée, on peut tout t'enlever. On ne peut pas t'enlever ça, on ne peut pas t'enlever ta capacité à être un super artiste sur scène et ta réputation de péter des salles.
Ben oui, et c'est ça, tu vois, beaucoup de les critiques du cinéma français, justement, comique, parce qu'il y a de bons humoristes qui sont dedans, et c'est souvent les critiques négatives, ouais, ça cache ton à fond, c'est faire jouer les potes, machin, machin, c'est nul, et tout, et tout, et tout. Mais si tu es là, c'est parce que on te reconnaît quelque chose. Après, le résultat final peut être une daube, et ça peut faire un flop, Mais toi, il faut que toi, jamais perdre de vue ton art et ta vision et ton expression artistique. C'est ça le plus difficile à faire parce que tu vas te poser des questions. On te fait faire un film et tout, ouais, je passe à la télé, comme disait le frère de Chris Rock dans le documentaire. Attends, mais je vais voir mon frère, il y a Eddie Murphy qui joue, après il y a mon frère, après il y a l'autre qui fait le prince de New York avec Eddie Murphy qui joue, il y a mon frère, il connaît ces gens-là, il connaît les gens connus, mais
Ouais,
il
c'est
est où le
clair.
pognon? Il est où le pognon? Ben, il n'est pas là. Tu les connais et quand tu te casses la gueule, on peut aussi, par exemple, l'histoire de Gad qui dit quand il a fait sa traversée du désert, tout le monde lui a tourné le dos. Et quand il est ressorti de l'autre côté, certains qui avaient fait un 180, ils ont continué le tour jusqu'à faire un 360.
C'est beau, hein?
Mais ouf, ouf, ah, j'ai mal.
Un
C'est
truc technique
compliqué.
là pour le dernier truc technique que j'ai vu qui peut s'appliquer au stand-up, il vous montre le moment, il y a un plan de caméra ou deux sur la méthode qu'utilise Chris Rock pour continuer ses setlists et pour les mémoriser. Donc il a un système de post-it qui fait vraiment penser un peu au post-it qui est au Saturday Night Live où il met blague par blague sur un tableau et au moins il peut visualiser. Il faut de l'entraînement pour bosser comme ça, mais c'est un très très bon système.
Ouais.
Et je vais faire un petit clin d'œil à Elodie Arnaud qui utilise littéralement le même système, une liste pareille. Elle recopie carrément
Ouais.
toutes les blagues qu'elle doit faire dans le spectacle.
Ouais.
Et je pense que peut-être j'ai vu Thomas Marty faire un truc comme ça, mais en fait, il y a de la méthode vraiment, c'est intellectuel à un moment. Si vous avez 200 blagues, ben, recopier 200 blagues, ça permet de pas abîmer l'esprit, ça permet de dire à l'esprit, la mémorisation, on est OK et tu as un chemin, tu dois le suivre. Et peut-être ce soir, le chemin, il faut un peu le changer. Donc tu vas modifier directement en amont cette liste-là, mais tu vas la rendre visuelle et tu vas accepter que c'est que mécanique, que c'est que des. Ça rentre dans des cases, il faut que tu passes par toutes les cases.
Ouais, ouais, pour complémenter ça, c'est quand tu as des blagues, les petites transitions que tu te mousses loose gag à écrire pour faire transition, ça c'est si tu commences à écrire les transitions aussi et mémoriser les transitions comme les blagues, tu vas te bloquer dans ton texte. Et un truc intéressant à faire, c'est par rapport à ce système, c'est de lire Save the Cat, c'est un livre d'écriture de scénario. Et où il te parle du beatboard. Du beatboard, c'est un peu ça, cette même histoire, où tu peux écrire donc les titres des scènes ou des titres des blagues sur le post-it, tu le mets dans ton tableau, et là, quand tu regardes le tableau, tu vois le film de ce que tu fais. Et tu peux l'échanger, et là, tu vois un autre film. OK. Et si tu écris, si, mais c'est le pire truc, je pense, c'est la page blanche. Les gens qui commencent à écrire direct sur une page blanche, c'est vraiment galère parce que tu veux changer quelque chose, tu dois lire, tu vas trouver ton paragraphe, etc. Alors que si tu as un moyen visuel de voir l'enchaînement de tes blagues et voir comment elles marchent mieux ou moins bien si tu échanges de place, franchement, ça c'est libérateur. Et tu peux jouer, c'est de la pâte à modeler après. Et sinon, tu viens avec ton texte et 3 pages et c'est un peu comme réciter l'alphabet. C'est comme ouais, si tu pouvais réciter l'alphabet dans l'ordre que tu veux et que tu y arrives, alors que d'habitude on n'y arrive pas.
Et Save the Cat, c'est un livre qui est. Moi, je vous recommande si vous avez un peu des velléités de scénariste. C'est une très bonne initiation au scénario, Save the Cat. C'est Blake Snyder qui était un scénariste. C'était pas le meilleur scénariste du monde, mais en tout cas, il a écrit quelques scénarios. Il a surtout théorisé sur ça. Il a simplifié un peu l'aspect scénario. Il a rendu ça plus fast-food, mais c'est dans le bon sens du terme. En français, ça s'appelle Écrire un scénario. Vous le trouvez. Un peu plus difficilement maintenant, bizarrement.
Ouais.
C'est récemment, je l'ai conseillé, les gens avaient du mal à trouver, mais il se trouve en PDF. Et il a cette vertu de rentrer chaque scène d'un film dans une case. Et de
Ouais.
dire, écoutez, si vous demain vous voulez faire un film, il faut qu'il y ait une ouverture avec une image.
Ouais.
Faites attention, vous verrez que cette image, ça serait bien que aussi elle conclue le film. Si au début du
Ouais.
film, il y a un lever de soleil, à la fin du film, il y a un coucher de soleil.
Ouais.
Là, ben, dès les premières minutes, il va y avoir une exposition. Il faut qu'on comprenne l'univers. OK, ça se passe dans un comedy club. À la 17e minute, cette scène-là, elle va être cruciale parce que c'est telle chose qui se passe. Et vous verrez. Et après, si vous lisez le livre, que vous regardez un film dit classique sur Netflix ou pas, vous allez dire, ah d'accord, là, on est à ce moment-là dans le par
Ah
rapport à ce qu'il
oui.
m'a dit. C'est vraiment, il a très bien identifié. Toutes les cases rentrent. Les bascules se font à peu près au même moment.
Et parce que c'est des choses universelles depuis très longtemps. Et donc, il y a pas, il y a deux, trois en vraie structure de scénario. Et lui, il en expose une en particulier qui est la majoritaire. 90% des films sont construits sur ça.
Ouais, c'est ça. Et après, bon, ça va te dégoûter un peu parce que tu vas voir des films de merde où les mécanismes sont ultra évidents et tu dis, ah non, donc ça casse un peu la magie. Mais par contre, il te dit justement, l'histoire du beatboard, il dit, mais perds du temps, choisis tes petites fiches, choisis, si tu veux, avec des petits carrés ou toutes blanches, choisis des crayons, va passer du temps à choisir des crayons, à choisir machin, perds du temps à imaginer l'ordre des choses parce que tu vas le gagner en réduction de déchets d'écriture. Parce que souvent, si tu commences à écrire direct, souvent, tu vas être obligé de tout jeter à la poubelle ou d'aller reprendre des petits morceaux. Alors que si tu écris des petits morceaux, tu les mets sur le tableau et après, une fois que tu es content de la séquence que tu vas faire, tu les mets dans l'ordre et tu les écris s'il faut les écrire comme ça. Et là, ça se passe mieux et tu gagnes du temps finalement. Il y a moins de déchets.
J'ai la chance d'avoir un grand bureau. Et dans le bureau, je regarde autour de moi, j'en ai 6.
Ah ouais.
J'en ai 6 de beatboard qui sont pas dessinés. J'en ai un qui avait des dessins.
Ouais.
Donc, c'est mes métalliques, ils sont qu'avec des dessins. C'est l'ordre de ce que je fais en paperboard.
Ouais.
Et tu vois, c'est des dessins miniatures. Et voilà, il y en a un autre, c'est que des setlists.
Ouais.
La setlist se fait comme ça. Il y en a un, c'est que des blagues où j'ai le titre de la blague, à
Ouais.
peine le développement, et je sais qu'elles sont à développer.
Ouais.
Et puis les autres, c'est consacré aux autres projets avec, tu vois, là, les marqués, tester plateforme, établir plan, tata, tata. Je fais vraiment tout, je rends tout visuel pour que dans mon champ d'action, je puisse toujours revenir et dire, ah, tiens, ça, il faut le modifier. Ou d'un coup, là, je suis en train de voir mes dessins, je me dis, ça, c'est bizarre que ces deux, ils s'enchaînent comme ça. Et dès que je vais me lever, je vais pouvoir les inverser. Et après appliquer, mais voilà, il faut trouver sa méthode. Ma méthode n'est pas la méthode de Chris Rock et pas la méthode de Chris Fier. Mais
C'est ça. Chacun a sa méthode. Mais il faut, voilà, déjà en avoir, c'est déjà pas mal. Et
ouais.
de l'évaluer, de voir si tu veux la faire évoluer ou pas. Voilà, et c'est ça qu'on apprend dans tous ces documentaires, tous ces gens, c'est qu'ils ont eu besoin d'un moment être plus organisé,
De trouver leur méthode, trouver ce qui
Ouais,
leur
c'est ça.
réussit, de trouver leur petite énergie et ce qui est. Et dernier truc, sans vous spoiler, bien sûr, à un moment, il y a Dave Chappelle. Et quand il y a Dave Chappelle, on voit qu'il a un traitement à part. Il a un traitement à part. On ne peut pas le contrôler, Dave.
Ouais.
Et c'est. Voilà, je ne vais pas vous spoiler. Il y a des trucs très stupides. Il y a des trucs mais stupides marrants, je trouve, dans le documentaire. Il y a Kevin Hart, il a vraiment des idées très bêtes.
Ouais, ça.
Mais c'est marrant à voir cette énergie-là. Donc, on vous le conseille. Headliners Only, c'est très le stand-up qui parle de stand-up. C'est pas pour le grand public, mais si vous écoutez ce podcast depuis plus d'une heure et demie,
Ouais.
je pense que ça va vous plaire. Et on va terminer en beauté en disant que le film dont je voulais parler, ça s'appelle Nomadland.
Ah.
C'est pas Michel Zao, mais Chloé Zao. Et c'est Frances McDormand qui. Donc, c'est sur l'itinérance, c'est une nana qui est en pleine crise économique mondiale, elle est sexagénaire, elle se lance dans un voyage à travers l'Ouest américain en tant que nomade moderne dans une camionnette, et c'était assez génial à voir.
Ouf, on a eu de la chance parce que s'il n'avait pas trouvé, on serait encore là depuis encore 2 heures de plus juste
L'esprit
pour qu'il
d'escalier,
trouve.
peut-être. Scott, passe de bonnes fêtes, merci
Et
pour
toi
tout
aussi,
ce que
tout le
tu as fait
monde.
pour le podcast, pour tout ce que tu as fait pour la communauté. J'espère que
Waouh.
tu reçois régulièrement des messages. Moi, je sais, je le dis, autant je suis content des ventes du guide ultime, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont acheté et lu Comedy Bible.
Ah.
Et ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas lu l'autre, qui n'ont pas lu le Greg Dean.
Ah oui,
Il
Brexit.
y a un marketing qui est moins bien fait sur le Greg Dean. Je sais pas.
Ah oui, c'est fort possible. Et le Comedy Bible est plus accessible.
Voilà, Comedy Bible qui a été non pas traduit. J'insiste sur ça, c'est pas une traduction, c'est une adaptation.
Ouais.
Scott et sa camarade,
Ouais.
tu peux rappeler le nom?
Non. Non, parce qu'elle a changé. Il a changé de. Maintenant, c'est Eugenio. Eugenio. Non, Ismaël. Merde.
D'accord, mais on sait.
Voilà. Donc,
Je vois ce que tu veux dire. Il
c'est marqué
y a
Eugenio.
une transition.
Oui, qui a fait une transition et qui maintenant.
On va pas, on va pas.
On va parler
Les
de la
gens,
place.
ouais, on va pas me. Non,
Mais.
mais j'en reste personne, mais en tout cas, il y a eu du travail, il y a eu un vrai travail d'adaptation, de recherche, de sources actuelles. Donc, c'est plus qu'une traduction mot pour mot, c'est une vraie adaptation. Ça a été comment on rend la méthode préhensible pour nous, Français.
Ouais.
Donc là, je garde ma réserve sur le fait que je pense que cette méthode représente un stand-up qui est un peu daté. C'est une méthode mais qui a eu vraiment des qualités. Je crois fort au fait d'étudier toutes les méthodes et d'en tirer. Tant pis, si vous lisez mon livre, vous avez une seule astuce qui vous va. C'est bien,
Ouais.
vous avez payé 25 balles pour une astuce. C'est pas si cher que ça en vrai.
Ouais, c'est ça. Si tu joues une fois et tu. Voilà, c'est pas cher. Ça se rentabilise vite, en tout cas.
Donc
Comme
voilà,
les
vous avez.
cours, comme les livres. Tout l'argent que tu veux, vous mettez dedans et que vous jouez, vous allez le récupérer.
Et misez sur vous. On ne le
Et oui.
répétera jamais assez, ça va être la nouvelle année. Misez sur vous. Produisez-vous, mettez l'argent sur vous, formez-vous. Sur le moment, ça peut être un peu douloureux, mais que ce soit Scott ou moi, on est vraiment partisans de. On achète des masterclass, on achète des formations, on lit des PDF, on continue à être éternel étudiant parce que c'est notre croyance, que c'est comme ça qu'on sera meilleur en tant que stand-upper, meilleur en tant que pédagogue et meilleur en tant qu'artiste.
C'est ça, c'est ça. Et, mais bon, après, bon, nous, on le fait pour le plaisir. Et ça tombe bien que ce soit le stand-up, parce que sinon, ce serait autre chose. Je pense qu'il y a des gens qui sont un peu câblés comme ça. Et si ce n'est pas le stand-up, c'est autre chose.
Mais
Mais...
tu le fais pour autre chose, tu le fais pour l'opéra, tu le fais
Ah oui, je fais ça
pour
pour
le
le stand-up.
scénario.
Ah oui, mais je pensais des années à bouffer des conférences TED, chaque fois que je faisais un trajet en voiture. Ah, le neuro machin. Ah, très bien. Tata. Et voilà, et ça, on finit jamais. C'est toujours du plaisir qui est renouvelé. Et t'es pas en train de bouffer des pubs de Leclerc quand t'es dans ton trajet en voiture. Et ça, c'est très cool.
Bonne fin d'année, Scott. À la
Allez,
prochaine.
à que pour tout. Ciao, ciao.